Europe.
Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
Bonjour à toutes et à tous. Saison 2, épisode 5 de votre club de l'été est déjà la fin d'une première semaine qui fut intense. Et pas question de s'arrêter en si bon chemin. Le club de l'été d'Europe 1 reste ouvert jusqu'au 23 août et fonctionne toujours selon un même mot d'ordre, le partage. Des coups de cœur culturels, des bons plans pour découvrir notre patrimoine, des astuces pour concocter des recettes gourmandes. Deux heures de direct au cours desquelles vous allez entendre aujourd'hui les mots comédienne, flic, guide et ostréiculteur. Eux, leur métier est de vous apporter un maximum d'informations et de sourires. L'Espresso pour le tourisme et la culture, Olivier Pouls pour la gastronomie. Salut les amis.
Bonjour à tous.
C'est déjà vendredi.
Oui, déjà une semaine, c'est ce que j'allais vous dire. Le temps file.
Moi j'aime beaucoup l'idée qu'on soit une série avec des épisodes et des saisons. J'espère
c'est pas
qu'il y aura
mal,
beaucoup
hein.
de saisons.
Et puis alors, c'est pas du tout Game of Thrones, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de trucs voilà, sordides.
Il n'y a pas de fin écrite encore.
Il n'y a pas de fin écrite.
Non
oui, enfin, il va falloir quand même en écrire une, mais bon. Lise, notre invitée du jour, adore aller traîner du côté du Cap Ferré, mais pour visiter quel site aujourd'hui?
On ira du côté d'un village qui s'appelle L'Herbe.
D'accord.
Voilà, il n'est pas question de choses
illicites
du tout.
J'ai rien dit
du
tout.
Je vous vois, Eva.
Oui, je vous ai... D'accord, voilà. Et Olivier, je sens que notre produit du jour va être iodé.
Bah, effectivement, quand on pense au bassin d'Arcachon, c'est peut-être le goût de l'huître qui vous vient directement dans la bouche.
Peut-être, vous êtes en train de faire saliver notre invité. On va terminer l'émission, évidemment, avec une nouvelle recette de barbecue, Olivier. Puis vous nous délivrerez également un vrai faux des fourneaux. Un paquet de nourriture terrestre, donc, à découvrir et savourer pendant ces deux heures de direct. Ce club de l'été, c'est aussi le vôtre. Hein. À vous de réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur Instagram, avec les petits bruitages qu'il faut. Et nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Lise Pressac et Olivier Pouls, notre invité, passent sans le moindre problème d'un plateau télé au planche du théâtre et aux étals des librairies. Ma chère invitée, tendez bien l'oreille, les sons qui suivent racontent des tout petits bouts de votre vie, vraiment des petits bouts.
On se dit pas, je vais parler de l'amnésie, c'est très profond. On se dit, tiens, il y a une situation de théâtre, c'est les confrontations.
Tu sais que je t'ai pas emmené dans un endroit de merde, là.
Ah non, c'est joli.
Un peu que c'est joli. Et puis c'est bon aussi, tu vas voir.
Ah ouais.
La beauté des personnages de Molière, c'est qu'ils peuvent avoir tous les vices du monde et toutes les caractéristiques de la méchanceté. Ils résonnent en nous avec humanité.
Je ne sais pas vraiment pourquoi on écrit. Je crois qu'on écrit pour trois ou quatre personnes qu'on aime et qui vous croient fortes. Et qui ne savent pas que d'un mot, ils peuvent vous mettre à terre.
Merci pour cet accueil. Je vous recevrai un entretien particulier pour faire un bilan de vos compétences. On va travailler ensemble le jour, parfois la nuit. On est une petite équipe. Chacun va devoir définir ou redéfinir son rôle.
Bonjour Gwendoline Hamon.
Là vous avez fait fort.
Oui, alors là, je vais expliquer aux auditeurs. Au premier son, Gwendoline Hamon avait les larmes aux yeux. Et alors c'était vraiment pas voulu parce que on va décrypter tout ça. Pour commencer, on est très heureux de vous accueillir évidemment dans ce club de l'été sur Europe 1. Vous êtes comédienne, metteur en scène, auteur. Les mots sont votre univers depuis 2015. Vous incrustez dans notre télé aussi grâce à la série Cassandre qui est diffusée sur France 3 et dans lequel vous interprétez la commissaire Florence Cassandre. Alors avant d'évoquer tout cela, dites-nous ce que vous venez d'entendre. Avec émotion.
Non mais en fait, alors bonjour, je précise d'abord que je suis une femme et pas un homme, parce que j'ai une voix un peu cassée ce matin. J'ai peu dormi. Non, j'ai entendu la voix de mon grand-père et comme je suis
Jean Anouilh.
Jean Anouilh. Comme je suis assez fatiguée parce que je viens de terminer avant-hier
deux épisodes de Cassandre
et que j'ai peu dormi entre les voyages, les fêtes et les rendez-vous et l'enfant qui a eu son brevet hier.
Je
suis
bravo,
plus félicite, mention bien, je vous signale.
Ah bah,
du coup, je suis plus fragile et j'ai absolument pas de pudeur de ce côté-là. Et ça m'a émue tout de suite, ça m'a fait pleurer parce que j'ai connu mon grand-père, il est mort, j'avais 17 ans et demi. Et de réentendre sa voix avec le casque comme s'il était là, ça m'émeut vachement.
Alors, on a entendu donc votre grand-père, Jean Anouilh. On a aussi entendu Michel Bouquet. Parce qu'en 1990, c'est avec lui que vous commencez votre carrière de comédienne au théâtre.
Oui.
Dans l'Avare, si je me trompe pas.
Exactement. Hein. Ouais. Je prends des cours au théâtre de l'Atelier et il y a un petit carton devant la porte de l'entrée des artistes par laquelle les élèves arrivent avec une audition pour jouer Marianne dans l'Avare avec Michel Bouquet. J'y vais un peu en cachette parce que j'ai 3 mois de cours. Personne dans la famille ne veut que je fasse ce métier ni croit. Et je passe 3 auditions et je suis engagée. Donc c'est vraiment le... On dit toujours qu'il faut beaucoup de chance dans ce métier. C'est vrai, c'est évident, il y a tellement d'acteurs.
Et du culot et du talent.
Le culot, je l'ai maintenant, je ne l'ai pas eu pendant 25 ans, hein, je vous le dis tout de suite.
Oui, mais vous êtes allée à cette audition.
Mais j'y suis allée par instinct, c'est là où il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. J'y suis allée alors que je crevais de trouille en me disant, c'est maintenant.
Et puis évidemment, commencer avec Michel Bouquet,
ah mais ça chose. Change tout.
Ah oui.
D'abord parce que, et je ne le savais pas à l'époque, parce que j'étais quand même une petite ignarde. non mais c'est vrai, Bouquet, il me l'a dit plusieurs fois lui-même, il me l'a redit l'année dernière quand je l'ai croisé dans un TGV. Il m'a dit « Je ne serais pas qui je suis sans ton grand-père et sans Camus ». Il a beaucoup beaucoup joué à nous, il a créé des personnages et à l'époque on attendait la pièce à nous chaque année comme le Messie. Aujourd'hui on ne sait même plus de quoi on parle, hein. Il y a même des gens qui pensent que Jean Anouilh est né au XVIIe siècle.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais il a beaucoup joué à nous, il a créé des personnages avec Suzanne Flon, avec Maria Cazares, avec tous les grands de l'époque et ça l'a porté... Et ça a aidé à montrer son immense talent. Et donc, moi, je ne savais pas qu'il avait joué une partie de l'œuvre de mon grand-père. Et donc, ça a fait un... Il ne savait pas que j'étais la petite fille d'Anouilh. Donc, quand il a appris, il m'a dit, c'est fou, c'est fou. Alors là, c'est fou.
Vous deviez jouer ensemble.
Ma grand-mère m'a dit, quoi ? Tu as été engagée ? Ça y est, c'est ça. Donc, c'est ça qu'elle veut faire. Il faut la laisser tranquille. Enfin, il y a eu un... Et j'ai appris beaucoup parce que c'était un type, il l'est toujours, quelqu'un d'extrêmement rigoureux qui répétait son texte, les mains derrière le dos, en costume, 2 heures avant le début du spectacle. En tournant en rond, j'étais super impressionnée. Je ne vous dis pas, pardonnez-moi, chers auditeurs, je ne suis pas vulgaire, je peux être grossière. En revanche, les mal de ventre, pour ne pas dire diarrhée que j'ai eu avant de rentrer en scène, parce que ça me collait une pression de malade de me dire, il faut que je sois au niveau de ce monsieur. Tout le monde me disait, pas de trou, hein, pas de fou rire, attention, ça rigole pas. Donc. Et puis c'était la langue de Molière.
Oui.
Donc j'ai fait pipi dans ma culotte le premier jour. Pas grave, j'avais 9 jupons.
Mais ça s'est bien passé au final.
Ça s'est bien passé.
Alors, on a également entendu un extrait du film Sagan dans lequel vous interprétiez la sœur de Sagan qui était incarnée par Sylvie Testu. Formidable film que je vous encourage à regarder. Un extrait du Grand Restaurant, émission formidable que moi j'avais adorée, qui avait été conçue par Pierre Palmade pour France 3, dans lequel vous jouiez un sketch avec Jean-Marie Bigard. Ouais. Je voulais absolument mettre cet extrait-là parce que je pense que les gens ignorent votre potentiel comique Gwendoline Hamon et qu'on va essayer de démontrer au cours de cette émission.
Écoutez, moi je dis toujours, enfin c'est comme ça qu'on m'a éduquée dans mon métier. Hein. Ma grand-mère disait « il faut avoir une palette de jeux ». Un acteur, alors il n'y a pas un vrai acteur, un bon acteur, un acteur, ça doit avoir, en tout cas quand on commence par le théâtre, une palette de jeux. Et c'est vrai que j'ai le sentiment d'être capable de jouer autant le drame, le classique, que la comédie. Et la comédie, c'est un rythme très particulier. Il faut savoir faire du ping-pong. Et bon, on croit toujours que tout le monde sait tout. Et en fait, c'est un éternel recommencement, ce métier. À chaque fois que vous débutez quelque chose, on ne sait pas tout ce que vous avez fait. Ça fait 30 ans que vous bossez, mais en fait, vous avez 18 ans, vous êtes vierge. Donc, il faut reprouver, remontrer. Ouais.
Et en même temps, on vous enferme très vite dans une catégorie. Bah. C'est ça qui est compliqué. Alors, comment on fait justement pour en sortir ? Parce que très vite, les premiers rôles vont vous coller une étiquette et certains ne s'en sortent jamais d'ailleurs.
Ah ben vous savez que là, par exemple, Cassandre, et j'en suis ravie en même temps. Hein, c'est...
On va en reparler, Gwendoline, oui.
Mais bien sûr que j'ai une étiquette. Alors vous avez l'étiquette de la jolie gonzesse qui ne doit pas
c'est
avoir
inventé... C'est pas désagréable
inventé...
ça.
Ah bah c'est pas désagréable, mais il faut quand même montrer qu'on a inventé le fil à couper de beurre, parce que sinon ça peut être emmerdant.
On n'est pas que jolie et pas qu'une plastique.
On va reparler tout ça. La Rousseau, c'était parce que c'est une de vos chansons.
Oui, j'ai pas compris, La Rousseau.
Parce que dans une interview, vous avez dit que c'était la chanson honteuse.
Et voilà,
c'est
la chanson honteuse que vous adorez. J'adore le populaire, j'aime tout en fait. Vous
voyez, c'est fait danser tout de suite. Couleur de cheveux à peu près.
Non, ça va pas, je suis blond vénitien.
Il va y avoir une dispute dans le studio. On va reparler de tout ça avec vous, Gwendoline Hamon. Moi, j'ai un pouvoir de prédiction comme Cassandre. Je pense qu'on va passer un très bon moment dans le club de l'été, et ce jusqu'à 11h, après je réponds plus de rien. La preuve, avec une première pause musicale et la voix grave et puissante de Lauren Daigle, je dis n'importe quoi, oui c'est ça,
Lauren Daigle,
oui, qui chante You Say sur Europe 1, écoutez c'est génial. Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm hell when I am falling short. I don't belong. Oh, you say I am yours. La voix sublime de Lorraine. Dégueule, je suis désolée, mais ça se prononce comme ça, ne riez pas. Ça s'écrit Daigle, D-A-I-G-L-E, voilà. Je vous conseille de réécouter ce morceau qui est formidable. Dans un instant, avec notre invitée Gwendoline Hamon, nous avons quelques coups de cœur à partager, et c'est sur Europe 1, évidemment.
Le club de l'été sur Europe 1,
9h, 11h,
Eva Rock.
Il est 9h25 et nous sommes en direct sur Europe 1 pour votre rendez-vous estival, le club de l'été. Notre invitée du jour est la comédienne Gwendoline Hamon. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir sur les réseaux sociaux, via Twitter avec le hashtag Europe 1, puis avec Lise, nous relayerons vos messages et vos questions également. Gwendoline Hamon, on en parlait, mais quand France 3 vous propose ce rôle récurrent de Cassandre en 2015, est-ce que vous hésitez en vous disant « est-ce que je ne vais pas m'enfermer dans un rôle ?»
Bien sûr que oui. D'ailleurs, je me suis toujours dit ça. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas faire de série et que je faisais que des unitaires. Ou...
Et alors, qu'est-ce qui a changé avec ce personnage ?
Non, mais en fait, je me suis dit « c'est une chance énorme qu'on me propose un personnage déjà qui n'existe pas, que je vais incarner toute seule, à qui je vais donner mon énergie. »
Que vous pouvez façonner aussi au fur et à mesure des épisodes.
Bien sûr, parce qu'il y a un pilote avec un personnage qui est dessiné, bien évidemment, il y a une histoire, mais c'est assez flou. Elle a un fils avec qui elle ne s'entend pas, elle n'a pas vraiment été mère, elle est nommée au 36, elle est divorcée, c'est une femme seule, c'est tout ce qu'on sait. Et donc, son fils fait une connerie, il est muté à Annecy dans un pensionnat de redressement et elle se dit « Allez, j'abandonne tout, ma carrière, et je vais devenir une mère et j'arrive, entre guillemets, en province, donc chez des gens, pas des ringards, mais ça va aller à deux à l'heure et je vais être pépère. » Et finalement, elle rencontre une équipe avec qui ne l'attend pas et qui l'appelle la Parisienne, avec qui elle va bien s'entendre. Ils vont beaucoup la respecter et puis elle va s'attacher à eux. L'histoire du fils, ça va s'arranger avec son fils qui grandit, hein, comme partout. Et puis finalement, on rentre dans un personnage beaucoup plus complexe, qui est une anti-héroïne comme les gens les aiment, et comme je les aime aussi, parce que nous sommes toutes des anti-héroïnes et des héroïnes en même temps. Mais elle est brillante dans son métier, elle excelle, elle a beaucoup d'empathie, et en même temps, elle est seule, elle a des problèmes de cœur.
Et ça marche très bien sur France 3, hein, et en moyenne 4 millions de téléspectateurs.
Écoutez,
qui
4
vous
millions,
suivent.
4 millions 2, et puis on arrive à faire des replays à 800, 850 000, donc on monte à 5 millions, 5 millions 2. Et moi, vous savez, je suis toujours surprise par le succès. C'est magique, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Je pense qu'il y a beaucoup de sincérité. On est une vraie équipe qui se marre. Les gens nous disent quand ils viennent sur le plateau, ah, c'est incroyable, en fait, vous entendez hyper bien.
Est-ce que vous avez un petit droit de regard, justement, sur le personnage ? Est-ce que vous pouvez le façonner ? Vous pouvez discuter avec la production, avec les auteurs, et apporter une touche ?
C'est là où on est une équipe. Bien sûr, ils me font confiance puisqu'ils savent que c'est moi qui suis garante de ce que j'ai déjà inventé à l'aide des auteurs. Je vous disais, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la vraie sincérité. C'est-à-dire que j'y mets de moi, on me dit toujours « est-ce que c'est toi Cassandre ?» Non, ça n'est pas moi du tout, je ne suis pas du tout cette femme. Mais évidemment, elle a beaucoup de moi.
Évidemment, évidemment. On va continuer à parler d'héroïne parce que toute cette émission, vous verrez, on est traversé par des femmes fortes. On va parler également de votre association Imagine, dont vous êtes la marraine. Ça sera dans un instant, évidemment, sur Europe 1. Puis on va vous faire aussi partager un coup de cœur pour un livre qu'on a adoré au Club de l'été. Il sera encore question de femmes. À tout de suite pour la suite du Club de l'été sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été. Notre invitée est la comédienne Gwendoline Hamon, commissaire Florence Cassandre dans la série éponyme diffusée sur France 3. Gwendoline Hamon, vous êtes aussi une femme engagée. Vous êtes marraine de l'association Imagine, initiative des malades atteintes de cancer gynécologique. Pourquoi ce combat et comment on peut vous aider au sein de cette association?
Eh ben, je vais vous le dire avec humour, Eva Rock. Pourquoi ce combat? Parce que ma mère est morte d'un cancer du utérus il y a 10 ans, à 58 ans, parce qu'elle n'est pas allée 3 ans chez le gynéco. J'ai écrit un bouquin...
Les dieux sont vaches, chez Lattès.
Sur cette histoire, et cette association, qui est une toute petite association de patientes, m'a contactée et j'ai dit oui tout de suite. De toute façon, moi je suis quelqu'un de très engagé, j'ai toujours voulu m'engager. Je pense qu'avec le temps, je vais me surengager pour tout, parce que je pourrais me battre pour tout le monde et n'importe qui. Tout me révolte, en fait. Donc dès que je me lève le matin, je suis révoltée parce que je ne supporte pas qu'on tape des femmes, qu'on les tue. Je ne supporte pas que les migrants, on s'en foutent comme si c'était les juifs d'hier. Enfin, rien, je ne supporte rien. Donc, je suis engagée. Mais ça commence par la gynécologie, parce que maman en est partie et que je crois qu'il y a un très gros travail de prévention à faire. Les gens ne savent pas. Et expliquer aux femmes qui elles sont et qu'elles se prennent en charge. Contre même un médecin qui va leur dire « Non, non, c'est un problème gastrique. Non, monsieur, je veux un examen gynéco, je veux que vous alliez voir plus bas. » Parce qu'un cancer de l'ovaire, on les prend très souvent en stade 4 et ça, on s'en va très vite. Donc il faut connaître les signes, il faut, voilà.
Donc le principal mot d'ordre, c'est en parler autour de soi et pousser les femmes à aller se faire ausculter.
Le principal mot d'ordre, il y a plusieurs choses. On est aussi sur une campagne de vaccination. Alors, je sais qu'en France, c'est très compliqué. On est le seul pays à avoir un taux de vaccination pour le HPV. Le HPV, c'est le papillomavirus dont ma maman est décédée. 19% de taux de vaccination en France, 84% en Angleterre, 100% en Australie. Et je ne vous cite pas tous les autres pays qui sont très au-dessus de nous. Même les États-Unis, 45%, alors que ce sont des puritains.
Mais c'est vrai qu'on en parle de façon plutôt récente.
Oui, mais enfin...
De ce vaccin.
Pas tant que ça. Là, il y a un nouveau vaccin qui va sortir. Il élimine 90% des HPV. Donc, il en reste. Mais on sait qu'il y a deux HPV qui créent des cellules précancéreuses qui je crois que c'est le 16 et le 18. Si on ne fait pas un frottis... Moi, je le fais tous les ans. Je le fais tous les ans... parce que je veux être sûre que ça ne commence pas. J'ai pas envie de me faire faire une conisation, c'est rien, hein, c'est un petit laser, mais quand même, faut rentrer à la clinique ou à l'hôpital, se faire faire griller le truc. Bon, c'est compliqué, il y a des femmes qui n'en peuvent plus avoir de bébé parce qu'elles se sont trop fait coniser, et puis il y en a qui sont mortes parce qu'elles se sont pas fait coniser. Donc il y a un moment, on fait son frottis, il est remboursé à 100% depuis cette année, grâce à Béatrice Couillard, j'ai bien dit le nom, c'est la députée qui nous défend, elle s'appelle Couillard, elle est charmante. Et donc voilà, c'est gratuit, on fait ce petit truc avec un coton-tige, bon c'est pas très agréable, mais franchement ça fait moins mal qu'une carie. Et puis voilà, on s'occupe de soi, c'est quand même important, c'est par là on fait les bébés, voilà. Et l'amour.
Et l'amour surtout.
l'association. Vous êtes une marraine très engagée qui connaît vraiment ces dossiers, vous n'êtes une marraine symbolique.
Non, je connais mes dossiers et puis j'y tiens, je pense que même si c'est deux femmes qui m'entendent, eh bien, ça sera deux femmes de plus, c'est tout. Il y a trop de morts. On a 15 000 cancers gynéco par an. On peut en éviter la moitié. Et puis, je ne parle pas de mon ami la Sécu, qui n'est pas mon ami d'ailleurs. Mais vous savez ce que ça coûte de soigner quelqu'un ? Une femme qui se fait soigner pendant 7 ans, je ne vous dirai pas le nom, mais j'en connais une, c'est 5 millions d'euros de soins, de chimio, de radiothérapie, etc., etc. Donc, il y a un moment, prenons-nous en main, et les médecins, et les femmes, et l'État. Et puis, apprenons aux gens à essayer de se préserver. Et voilà.
Si vous aviez un doute sur le côté, le caractère entier de Gwendoline Hamon, là vous en avez la démonstration.
Finis juste un petit truc sur les vaccins. Il faut vacciner les filles et les garçons avant leur sexualité, parce que les garçons sont porteurs sains. Donc moi par exemple, je l'ai le HPV. Alors je ne sais pas si j'ai le 16 ou le 18, ou si j'en ai des qui ne sont pas... qui ne crée pas de cellules cancéreuses, mais notre génération qui n'a pas été vaccinée et qui ne savait pas, on l'attrape en faisant l'amour. Et on peut l'attraper il y a 25 ans, il ressort 25 ans après, il se réveille. Donc, si on vaccine nos enfants, par exemple en Australie, c'est éradiqué. Ils ont vacciné à l'école, parce que c'est obligatoire dans beaucoup de pays, à l'école. C'est-à-dire que si tu ne te fais pas vacciner, tu ne vas pas à l'école. Tu ne vas plus à l'école, tu es viré du truc. Et donc, cette génération qui a été vaccinée il y a 10 ans, qui a 25 ans aujourd'hui, il n'y a plus de cancer d'utérus. C'est un truc de fou. Donc, on peut le faire. Évidemment qu'il peut y avoir... On me parlait des... Comment on appelle ça? Des... aidez-moi.
Non, je vous aide pas.
Non, mais quand on est malade, quand on réagit mal à un vaccin, des effets secondaires. Excusez-moi, messieurs, dames. Des effets secondaires. Mais c'est pas plus que moi, demain, je peux être allergique à la banane et faire un effet secondaire. Ouais. C'est-à-dire que la proportion de gens sauvés... Il ne faut pas oublier que les vaccins ont sauvé le monde, ont éradiqué des maladies. Et on a vu avec l'OMS, avec la Haute Autorité de la Santé, il n'y a pas... Non, ce n'est pas vrai. Ça se passe très bien.
L'association s'appelle Imagine, ça s'écrit I-M-A-G-Y-N. Vous allez voir, tous les renseignements sont sur Internet, bien évidemment. Merci beaucoup pour avoir évoqué cette association. On y tenait. Voilà, merci infiniment. On avait un coup de cœur à vous faire partager, Gwendoline Hamon. Je veux juste vous faire écouter un petit montage.
Ce que je veux, c'est être libre et vivre sans contrainte.
C'est un ange.
Je n'ai pas envie de changer ni d'être impératrice.
Non, je suis une comédienne, vous savez, je sais faire des trucs bien. Ça ici, je le fais pour bouffer. C'est tout, alors ne faites pas de photos.
Ah, l'argent.
De toute façon, je ne saurai jamais la vérité, alors.
Mais César, la vérité, tu la sais, tu la vois. On est ensemble. Si je voulais être avec lui, j'y serais, je suis libre.
Tu ne vas pas me dire que là, tu ne penses pas à lui.
Ce serait difficile, tu m'en parles sans arrêt. Puis oui, je pense à lui.
Gratte-moi le dos. Ah, personne ne fait comme toi.
Ce soir, nous sommes septembre. Et j'ai...
La voix de Romy Schneider. Vous venez d'entendre un extrait de Sissi, de L'importance est d'aimer, de Max et les ferrailleurs, de César et Rosalie, La piscine, et évidemment Les choses de la vie. Bonjour Sarah Brion.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous en studio ce matin. Nous venons d'entendre la voix de Romy Schneider, à qui vous consacrez un magnifique livre, Romy, une longue nuit de silence, publié chez Fayard. On va en reparler dans un instant, mais tout de suite, quelle est cette nuit que vous évoquez dans le titre de votre livre ?
En fait, tout part de ce 29 mai 1982, cette nuit au cours de laquelle Romy Schneider est morte dans un appartement qui n'était pas le sien, qu'on lui prêtait, parce qu'à ce moment-là, elle était traquée par les paparazzi notamment, et elle s'était repliée aussi à cause de toutes les blessures justement de sa vie. Elle est décédée dans cet appartement et je suis partie de là pour raconter un petit peu justement sa vie, des instantanés de vie et tous les personnages surtout qui vont venir à son chevet cette nuit-là, comme des papillons de nuit qui sont autour d'elle. C'est une nuit de tragédie parce qu'effectivement, elle est morte à côté de son dernier compagnon, Laurent Pétain. Et tous ces personnages vont me servir justement à raconter des instantanés de vie, des moments comme des flashbacks comme ça qui reviennent de moments qu'elle a vécu avec eux.
Alors, on va y revenir plus précisément. Ce sera dans un instant. On va continuer à parcourir d'abord la liste de nos envies et parcourir la vie de Romy Schneider grâce à vous, Sarah Brion. C'est dans un instant. À tout de suite sur Europe 1 pour la suite du Club de l'été.
9h, 11h, le Club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Et oui, nous sommes de retour pour le Club de l'été. 2 heures de direct tous les matins de 9h à 11h avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. Et dans le studio est avec nous la comédienne Gwendoline Hamon. Mais aussi Sarah Brion, qui vient de signer Romy, une longue nuit de silence aux éditions Fayard. Magnifique livre sur Romy Schneider. Vous le disiez, Sarah, votre livre, j'allais dire Romy, vous voyez, je fais une confusion parce que vous allez comprendre pourquoi. Votre livre est construit comme une suite d'instantanés. Ce sont des moments déterminants dans la vie de Romy Schneider. Alors, à titre personnel ou professionnel, si vous deviez en choisir 3 qui résument un peu le destin et la carrière de Romy Schneider, vous diriez quoi ?
Alors, 3 moments. Il y a le premier, il y a l'arrivée en France, évidemment, 1955. Pardon. Elle arrive, elle vient de tourner 3 Sissi, elle refuse un 4e Sissi en Allemagne. Et puis, comme un acte de rébellion, en fait, elle décide de revenir à Paris pour dire non à sa mère, qui a été très présente, pour dire non aussi à cette machine de Sissi où elle se sentait un petit peu comme une poule aux œufs d'or qui générait énormément d'argent et elle se sentait un peu coincée dans ses robes à crinoline. Et donc, elle arrive à Paris, on lui propose de choisir son partenaire parce qu'il faut rappeler qu'elle est une immense star en Europe. Et elle choisit un jeune homme qu'elle trouve très beau.
Qui n'est pas star du tout.
Qui n'est pas star du tout, inconnu, c'est Alain Delon. Donc c'est finalement elle qui va lui mettre le pied à l'étrier du cinéma. Elle va le pousser comme ça. Et comme un jeu de balancier, 10 ans plus tard, évidemment, 1968, c'est La piscine. Là, c'est le deuxième moment que je choisirai parce que à ce moment-là, elle s'est séparée d'Alain Delon. Elle est repartie en Allemagne parce qu'elle a... Le cinéma l'a un petit peu oublié, elle ne parlait pas très bien français, finalement. On a préféré Alain Delon à ce moment-là. Donc, elle est un petit peu tombée dans l'oubli. Elle s'est mariée avec un Allemand.
Star, voilà.
Exactement. Ouais. Et puis, 68, donc Alain Delon peut choisir sa partenaire pour La piscine. Il fait appel à elle et c'est le grand retour de Romy Schneider sur les écrans de cinéma.
Il l'impose, hein, Alain Delon.
Il l'impose, il a dit ce sera Romy Schneider ou je ne ferai pas ce film. Et effectivement, à partir de là, il y a toute la décennie aussi qu'on connaît avec les films de Sauté. Elle va devenir une icône française avec cette photogénie quand même exceptionnelle. Et puis ces blessures aussi qui font que quand on regarde un film de Sauté, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de... La frontière est très ténue entre ce qu'elle est dans la vie et ses rôles au cinéma. Elle donnait tout et c'est ce qui fait aussi que beaucoup de Françaises et de Français se reconnaissent en elle et aiment la regarder, s'identifient à ses personnages. On parlait tout à l'heure des femmes. Elle a joué énormément de rôles de femmes, des histoires d'amour, et on s'identifie tous à ces histoires-là. Et je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est aussi présente et on aime regarder ces films-là. Et puis, le dernier moment, je crois que c'est cette chambre dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est le dernier moment de sa vie, c'est la dernière année où elle a perdu son fils qui avait à peine 15 ans et qui est décédé dans un terrible accident. C'est un moment difficile, elle a eu aussi une opération du rein. Enfin, c'est une année très très compliquée et c'est ces derniers mois qui sont finalement qui vont mener vers une suite où son destin va s'arrêter ce 29 mai 82.
Gwendoline Hamon, est-ce que Romy Schneider fait partie des actrices qui entreraient dans votre panthéon ?
Bien sûr.
Oui.
Pour la plupart des actrices, Romy Schneider, Jenna Holland, Meryl Streep, ce sont les 3 qui sont souvent citées. Elle avait quelque chose, une humanité, effectivement, une force, une émotion incroyable et une sincérité. Moi, j'aurais adoré la rencontrer.
Ah oui.
Je pense que, mais vous avez raison. Je crois que la mort de son fils, c'est un drame dont personne ne se remet. Moi, demain, je perds mon fils. Au revoir, madame. Hein. Vous ne voyez plus. Mais non, c'est pas possible. C'est même pas que c'est pas dans l'ordre des choses. C'est que c'est un arrachement. Et je crois qu'elle a pas dû supporter. Plus, comme vous le dites, ce métier qui est difficile, ces paparazzi partout, ces gens qui vous sourient et qui vous lèchent les bottes, la fatigue.
Voilà. Audrey Murray est quelque chose qui m'a beaucoup touchée quand j'ai commencé à enquêter Sarah sur elle, en rencontrer tous les gens qui l'ont finalement connue, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle, Alain Delon, son ancien mari aussi,
Jean-Claude Brialy parlait beaucoup d'elle.
Voilà, et il y a ce besoin éperdu d'être aimée aussi, moi qui m'a beaucoup touchée, c'est-à-dire qu'elle avait un besoin insatiable d'être aimée et qu'elle n'a jamais comblé finalement.
Alors, votre livre se termine sur un entretien qu'Alain Delon vous a accordé. Il arrive à parler de Romy Schneider où l'émotion, elle prend le dessus à chaque fois et la conversation devient un peu compliqué.
Alors, je pense que quand l'émotion était trop forte, c'est à ce moment-là justement qu'il n'en parlait pas, parce que j'ai quand même attendu un an et demi avant qu'il veuille bien m'en parler. C'est quelqu'un que je connaissais déjà, puisque j'avais consacré un documentaire à Mireille Darc, donc je l'avais rencontré à cette occasion.
Pour un jour un destin.
Pour un jour un destin, donc on continue à se parler. On avait une sorte de conversation comme ça, ininterrompue, par coup de fil, par SMS, etc. Et à chaque fois, je lui disais, j'aimerais qu'on parle de Romy, et je sentais qu'il fuyait. Et au bout d'un an et demi, là, au mois de février, je lui ai écrit une petite lettre en lui disant que je n'envisageais pas de rendre le manuscrit sans lui en parler. Et il m'a appelé, et il m'a dit de venir 2 heures plus tard. Et là, on a parlé pendant plus de 2 heures, et l'émotion était assez forte. Et ce qui m'a beaucoup frappée, évidemment, c'est cette absence et cette présence en même temps de Romy qui est toujours avec lui. C'est-à-dire que même quand on est assis comme ça sur le canapé chez lui, il y a cette place vide entre lui et moi, et il évoque Romy sans arrêt.
Il laisse une place
quand
vide.
Quand il est à Cannes, il parle d'elle. Romy est allée à Cannes finalement avec lui, il évoque son nom. Et donc, c'est vrai que cette absence est très difficile pour lui à supporter. Il a perdu énormément de gens qu'il aime, évidemment, autour de lui, de sa génération. Mais Romy Schneider tient évidemment une place à part, parce que même s'il l'a quittée, évidemment, après plusieurs années ensemble, elle a toujours été présente, et lorsqu'elle allait mal, il a toujours été là. Il est le premier arrivé dans cette chambre dont on parlait tout à l'heure. Il était dans le sud de la France, il revient très vite en voiture. Il est là, il est là jusqu'au bout. Il prend un cliché d'elle sur son lit de mort, justement, ce cliché qu'il porte toujours aujourd'hui sur lui, dans sa poche. Elle est toujours présente avec lui. Ça, c'est un moment très fort qu'il a évoqué devant moi. Et c'est vrai que, par contre, lorsqu'il y a les obsèques, eh bien, il n'y va pas. Il ira seulement le lendemain, seul, sur sa tombe. Il ne veut pas aller comme ça avec tout le monde. Et c'est trop difficile pour lui aussi.
Sarah, tout à l'heure, effectivement, je vous ai appelé Romy. Hein, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que parfois, on a l'impression, en vous lisant, que vous êtes vraiment dans la tête de Romy Schneider. Comment vous êtes arrivée à ça ?
Alors c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de biographies, j'ai lu beaucoup de choses sur elle depuis plusieurs années, mais j'ai voulu raconter cette histoire un petit peu comme un roman aussi, même si tout est vrai, c'est quand même 2 ans d'enquête, et comme vous l'avez dit, j'ai essayé de rencontrer aussi toutes les personnes qui l'ont connue, et c'est peut-être comme ça, à force évidemment, de retrouver des choses, parce que je me disais, tout a été dit sur Romy Schneider finalement, et bien non, finalement quand on commence à enquêter, on se rend compte, je suis allée à Berchtesgaden justement aussi, là où elle est née, là où sa mère Magda avait acheté un chalet au pied du nid d'aigle d'Hitler, c'est des choses très fortes.
C'est ça, parce que Gwendoline Amont nous disait au moment de la publicité, on n'a pas beaucoup parlé de sa mère, mais qui avait eu une histoire assez incroyable avec Hitler, notamment.
Elle était très préservée, Romy Schneider, de sa mère qui était une antisémite.
En fait, voilà, on ne peut pas dire qu'elle a collaboré avec le régime, mais en tout cas, elle en était très proche. Elle avait acheté un chalet au pied du nid d'aigle d'Hitler à Berchtesgaden, dans les Alpes bavaroises. Et c'est vrai qu'il existe des images que j'ai vues, qui sont à Washington, au musée, où on voit Magda Schneider, donc, qui était une grande actrice du cinéma berlinois des années 30. Hitler venait la voir au théâtre, à Munich. Eh bien, il y a des images qui existent où on voit Magda Schneider marcher dans la neige aux côtés d'Hitler. Elle a dit elle-même qu'elle allait prendre le thé chez Eva Braun. Et ce qui était très intéressant, c'est que Daniel Biasini, l'ancien mari de Romy Schneider que j'ai rencontré, m'a raconté des moments inédits comme ça, où il est retourné avec Romy au chalet de Berchtesgaden. Et il y a ce moment que je trouve assez fort, justement, que je raconte dans le livre, où Daniel Biasini emmène Romy Schneider tout en haut du nid d'aigle, justement, avec Magda Schneider. C'est la première fois qu'il lui propose, on est en 1974, d'y aller. Romy Schneider hésite, mais en même temps, elle en a besoin parce qu'elle a envie ce jour-là de lui poser des questions, de confronter sa mère à son passé, d'être sur le lieu et de lui demander ce qui s'était passé. Et au départ, Magda Schneider nie, dit qu'elle ne connaît pas tellement cet endroit, qu'elle n'est jamais montée, alors que c'est quand même tout près de chez elle. Et au bout d'un moment, eh bien, elle dit oui, c'est vrai, oui, je me souviens, je suis venue, mais je suis venue boire le thé avec Eva Braun. Eva Braun qui était la compagne d'Hitler. Voilà, donc ce sont des moments assez forts, et c'est vrai que me mettre dans sa tête, c'était tous ces moments-là d'essayer de retourner sur ses pas, les pas de son passé, et puis de rencontrer évidemment tous ceux qui ont compté dans sa vie.
Et c'est très très réussi, on vous le conseille vraiment. Ça s'appelle Romy, une longue nuit de silence, c'est édité chez Fayard. Merci beaucoup Sarah Briand d'être passée par ce studio ce matin. Je conseille également votre précédente biographie, Simone éternelle rebelle, la vie et l'œuvre de Simone Veil, et puis vos portraits aussi pour l'émission Un jour un destin présenté par Laurent Delahousse. Merci infiniment.
Merci.
Gwendoline Amont, on se retrouve dans un instant pour parcourir la liste de nos envies avec encore des coups de cœur, et puis on ira du côté du Cap Ferret. À tout de suite sur Europe 1. Et puis on va finir, on va poursuivre plutôt, pas finir, parce que c'est pas du tout fini l'émission, avec un petit extrait d'un groupe que vous pourrez voir aux Vieilles Charrues, Tears for Fears sur Europe 1.
Pas du tout, Dépêche Mode.
Dépêche Mode, pourquoi j'ai Tears for Fears? Parce qu'on a parlé de Tears for Fears tout à l'heure, vous voyez, je perds la boule. Dépêche Mode. Dépêche Mode sur Europe 1 dans un instant. C'est Elsa Lévy qui vient nous raconter ce qu'elle a lu dans la presse féminine. Vous allez voir, Gwendoline Amont, c'est gratiné. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 9h-11h,
le club de l'été sur Europe 1, Eva Rock.
Il est 9h52 sur Europe 1 et jusqu'à 11h, c'est votre club de l'été avec notre invitée VIP, la comédienne Gwendoline Amont. On vient de quitter Sarah Briand, Elsa Lévy vient de rentrer dans ce studio pour une revue de presse déjantée et Olivier Pouls se dit « mais je ne suis entourée que de femmes aujourd'hui, mais vous êtes un homme heureux ».
Quel mais bien bonheur. Sûr, vous savez qu'il y en a qui beaucoup de chance pour être à ma place.
C'est vrai, hein. C'est vrai.
Je mesure mon bonheur, je que le savoure à chaque instant.
Et alors en plus des femmes sublimes et intelligentes.
Des bombes intelligentes.
Vous allez sortir avec un niveau incroyable. Sciences Po et c'est pas donné à tout le monde en 2 heures.
Hein. Ah voilà. Non, 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 je me nourris en permanence de cette compagnie incroyable.
Bonjour Elsa Lévy.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien.
Vous avez encore laissé traîner vos yeux dans les magazines féminins aujourd'hui. Et alors?
Alors, je pensais qu'il y en a pour qui ce soir, c'est les vacances. Alors pour vous, mesdames et messieurs, j'ai trouvé dans Cosmopolitan le mode d'emploi. Mon été sera zen, rien ne me détournera du bonheur. Du coup, je me dis... on aura peut-être enfin une réponse à donner à cet homme à l'article de la mort.
Il est où le bonheur? Il est où?
Donc Eva, que faire?
Eh bien, a priori, si j'en crois ce que vous m'avez dit, je n'écoute pas les rabat-joie, c'est la première règle.
Voilà, on m'explique que je ne peux pas dire tais-toi à tous les gens qui m'approchent, juste je me cale les deux index sur les tympans en ululant le dernier son de Maître Gims.
Je me tire!
Je crois que c'est très très zen.
Oui.
Alors Maître Gims, qui d'ailleurs ne veut plus qu'on l'appelle Maître, hein, il confie récemment, t'es au restaurant, t'as des gens qui te ramènent un truc et ils t'appellent Maître, ça commençait à me déranger. Mais ça, bien sûr, c'était avant.
Fallait réfléchir avant. Hein.
Oui, mais apparemment pas. En tout cas, c'était avant d'être Maître spirituel pour Cosmopolitan. J'espère que c'est pas trop lourd à porter, du coup.
Alors le deuxième conseil qu'il faut donner, c'est je voyage léger.
Voilà, je voyage léger. Donc on me dit, fini le sèche-cheveux, out les chaussures de rando, la trousse Pharma, les encyclopédies, la veste pailletée, les jumelles. Et pompe à vélo. Alors oui, merci de m'y faire penser. C'est vrai que les encyclopédies, je me fais avoir chaque été à les prendre. Mais ça ne s'arrête pas là. On me dit aussi, je voyage léger. Attention plage, je te préviens, il faudra me prendre comme je suis, c'est-à-dire sans maillot, parce que je l'ai oublié. Voilà, donc ici, zen rime avec exhibitionnisme. Ça sert à rien après de faire des hashtags MeToo.
Ah, voilà. Alors je ne fais pas la cuisine non plus.
Voilà, là le conseil est très simple, resto, saucisses frites et glaces tous les jours. Alors moi je dis...
Ah bah non.
Ah bah si.
Ah bah non.
Si, on s'est emmerdé 3 mois à maigrir et on les reprend en 10 jours.
Pendant l'été, c'est ça. C'est juste que ça sert à rien de nous dire ça pour nous dire 2 pages plus tard dans le magazine, de me faire un dossier 2 pages plus tard pour me dire comment être healthy. Voilà, ce serait bien un tout petit peu de cohérence de temps en temps.
Je ne fais pas le ménage non plus.
Là, on nous dit, je m'en fous des tas, je m'en fous de la poussière, vive les moutons, cet été, c'est le Larzac sur mon canapé.
Le Larzac sur le canapé.
Mais là, je trouve ça hyper dommage, parce que justement, ce mois-ci, avec avantage, je peux gagner un aspirateur balai. Alors, ce serait quand même con de ne pas kiffer un peu.
Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec.
Ou avec mon aspirateur.
Ou avec mon aspirateur.
Après, si je me continue ma rébellion féministe, je lis Glamour, qui lui prend le contre-pied de tous les autres magazines et nous promet, dès son édito, de ne pas nous donner de mode d'emploi pour perdre 3 kilos avant le maillot, et consacre ce numéro au plaisir, à la gourmandise, à la volupté.
Ça, c'est bien, ça.
C'est mieux.
Ouais, ça donne envie.
Oui.
Alors, effectivement, je dis banco, jusqu'à ce que je tombe sur le dossier mode intitulé Food Porn.
Oula.
Donc, le concept des mannequins taille 34. Ça fait comme jamais par Gucci, Chloé, Givenchy. Donc, elles font des grosses orgies de bouffe, on y revient. Elles s'enfilent des grosses pâtisseries, des saucisses, des burgers, c'est de très bon goût. En revanche, on ne nous dit pas si elles ont vomi tout de suite après ou si elles font juste une petite détox. Bref, c'est vendredi, tout est permis. Restons dans le plaisir avec Cosmopolitan et sa double page Parole d'homme, ce que je n'ose pas encore lui dire. Encore,
alors, Olivier,
entre parenthèses,
ouais, écoutez bien.
Ouais, cette séquence est pour vous.
Merci.
Avec Hugues, 31 ans, qui confie : j'adorerais donner une bonne fessée à Amandine, mais j'ai peur de la choquer.
Ouais. Vous voyez ce que c'est con.
Pas du tout.
J'ai envie de dire, mais fais-toi plaisir.
Non, il y a pire, il y a Francesco, 31 ans. Attention, séquence interdite aux moins de 18 ans. Donc
fermez vos oreilles.
Je ne serai pas contre un petit doigt dans le cul de temps en temps. Je n'ai pas la moindre idée de comment aborder le sujet. Bon, Bah Francesco, 31 ans, puisque tu passes par Cosmopolitan pour parler à ta nana, ça va, on ne nous la fait pas. Je te conseille de lire l'astrosex de ce même magazine pour trouver ta réponse. Avec un peu de chance, ta copine est poisson, et donc apparemment son fantasme, c'est une orgie psychédélique en mode 70s, ou peut-être elle est bélier. Et d'après l'astrologue, ce qui la fera vibrer, c'est la sauvagerie du désir.
Oula.
Alors Francesco, j'ai envie de te dire, ose, fonce, et si ça passe pas, écoute Maître Spirituel Gims.
Je me tire.
Son été ne pourra être que moins râpé et qui plus est, que plus elle.
Merci, merci Elsa Lévy.
Merci à vous.
Vous lisez des horreurs dans la presse féminine.
Où va ce siècle ? Moi, je
parce
sais
que tout est vrai.
Il se passera quoi dans 50
hein.
ans ? Qu'est-ce qu'on va nous raconter ?
Gwendoline Amont, elle n'a rien inventé. Elsa
Mais je sais. Alors, on va commencer à dire quoi maintenant ? Qu'on se passe des fils sur les dents et entre les dents et que ça sent mauvais ? Enfin, je veux dire, c'est pas possible.
Oui, pardon, je peux trouver ça, je pense.
C'était un peu spé vos articles aujourd'hui, mais enfin.
Ouais, mais c'est la réalité de la vie, malheureusement. C'est la réalité de la société qui s'élève.
Ouais. Merci beaucoup, Elsa. On se retrouve lundi pour une nouvelle revue de presse, évidemment. Vous avez beaucoup appris, Olivier. Ouais. Je savais que ça allait vous faire plaisir. Gwendoline Amont, on aurait pu aller du côté du sud-est avec vous, vers Opio et Valbonne notamment.
Ouais.
Mais il y a un autre coin de France que vous aimez, c'est le Cap Ferret. Mmh. Eh bien, décollage immédiat. À tout de suite sur Europe 1. Il est 10h, vous êtes sur Europe 1. Et c'est l'heure de faire un point sur l'actualité avec vous, Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Eva, bonjour à tous. Appartement de Nantes, dîner fastueux, travaux dans son logement ministériel après les révélations des derniers jours. François de Rugy s'est expliqué ce matin. C'était chez nos confrères de BFM Télé. Adrien Beck, le ministre de la Transition écologique, tient bon, pas question pour lui de démissionner.
Et dans la tempête, François de Rugy se dit soutenu par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Alors la question de sa démission est vite évacuée.
Je n'ai absolument pas de raison de démissionner. Je l'ai dit au Premier ministre qu'il ne me l'a absolument pas demandé.
François de Rugy ne compte pas partir donc, mais il est très tiré au bord des larmes. Le ministre laisse entendre qu'il a songé à jeter l'éponge.
Quand on est attaqué matin, midi et soir, que tous les jours sortent des nouvelles choses qui sont fausses, eh bien évidemment, on peut avoir envie de rester chez soi. On peut avoir envie de lâcher prise. Mais je ne le ferai pas. Car je suis très en colère.
En colère contre des inventions, une machine lancée contre lui, ce sont ces mots. François de Rugy, qui assure n'avoir jamais profité indûment d'un logement social, et tente de se justifier sur les menus fastueux à l'Assemblée nationale.
Qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard. Moi, je n'aime pas ça.
Sur les
je
travaux.
N'aime pas les huîtres, je ne prends pas de champagne. Alors vous voyez, je déteste le caviar. Alors vous voyez les histoires qu'on raconte à partir d'une photo.
Justification maladroite, jugeront peut-être certains. François de Rugy donne en tout cas une image terrible à juger ce matin l'ancien porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Le ministre de l'écologie assure lui qu'il portera plainte pour dénonciation calomnieuse contre tous les articles comprenant, dit-il, des mensonges.
Les précisions d'Adrien Beck pour Europe 1. Terrible accident hier soir à Montpellier lors des célébrations pour la victoire de l'Algérie en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Un conducteur qui roulait à vive allure a perdu le contrôle de sa voiture. Il a fauché une famille qui circulait à pied. La maman de 42 ans est morte sur le coup. Sa fille de 17 ans, légèrement blessée, et son bébé de 1 an a été gravement touché. Son pronostic vital est engagé. Le conducteur âgé de 21 ans a été placé en garde à vue. Plus largement dans toute la France, de nombreux incidents. Hier soir, après cette victoire de l'Algérie, des magasins pillés, notamment dans le quartier des Champs-Élysées. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner dénonce des faits inacceptables. 74 personnes ont été interpellées, 73 placées en garde à vue. Des répétitions qui se poursuivent à deux jours du défilé du 14 juillet. Et ce matin, Europe 1 vous emmène aux côtés des pilotes de l'armée de l'air. Plusieurs dizaines d'avions et d'hélicoptères survoleront la capitale dimanche. Une parade aérienne millimétrée et des entraînements qui ont commencé il y a plusieurs semaines. Reportage sur la base de Villacoublay, près de Paris. Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1.
Tout est réglé au mètre près. Le survol des Champs-Élysées va durer moins de 3 minutes et le défilé est préparé comme n'importe quelle autre opération militaire. Le lieutenant-colonel Charles pilotera un Rafale.
Ça reste une opération compliquée. Il y a des impératifs de sécurité, de tenue de vitesse, de tenue de timing qui font qu'on est assez concentré sur la manœuvre.
Ces manœuvres à basse altitude et à vitesse réduite font partie du quotidien des pilotes. Après un briefing au sol, le vol de reconnaissance en hélicoptère est nécessaire pour visualiser les points de repère stratégiques. Le capitaine de corvette Plaisier volera à bord de l'Atlantique 2.
L'Arche de la Défense, c'est vraiment le repère principal.
principal. Dès qu'on aura passé les tours, on aperçoit tout de suite les Champs-Élysées. On a que 3 secondes de marge de manœuvre, donc on sera surtout concentré, je pense, sur le respect de la séparation entre les avions.
Rien n'est en effet laissé au hasard pour que tout soit parfait. Le lieutenant-colonel Guillaume, navigateur sur le Rafale.
Ce qui va demander de la technicité pour les pilotes, c'est la parfaite tenue de position pour que la symétrie et la beauté globale de l'ensemble soient au rendez-vous.
Car le défilé aérien, c'est un spectacle et une grande première pour beaucoup de pilotes, fiers de représenter leur escadron le jour de la fête nationale.
Un reportage Europe 1 de Jean-Gabriel Bourgeois. Ce sera la plus longue étape du Tour de France. Elle s'élancera d'ailleurs dès 11h30 tout à l'heure. 230 km entre Belfort et Chalon-sur-Saône, 7e jour de course. Et des Français en confiance, à l'image de Thibaut Pinot qui a commencé dès hier, chez lui, à Montrelécro. Pour Europe 1, sur le Tour de France, Marguerite Lefèvre.
Avant l'étape, il avait peur de faire des déçus. Lui, le Vosgien, sur ses terres, sur ses routes qu'il arpente toute l'année et qui hier étaient par endroits recouvertes de son nom en peinture blanche. Thibaut Pinot espérait sans doute, dans un coin de sa tête, lever les bras sur la ligne d'arrivée. Ça n'a pas été le cas, mais en terminant 5e, le Français a plus que tenu son rang.
Je suis content, je suis avec les meilleurs, donc moi je garde toujours mon objectif, c'est être pas loin du podium. Après on verra, mais ouais, je m'enflamme pas et je sais que les sensations sont là, ça c'est le principal.
Sûr de sa forme, détendu, depuis quelques semaines, on découvre un Thibaut Pinot méconnaissable, à milieu du coureur fragile que l'on décrivait par le passé, celui qui a déjà abandonné 3 fois sur la route du Tour. Pour son manager Marc Madiot, un déclic s'est clairement produit l'an dernier.
Thibaut, je pense que le fait de ne pas être au Tour de France l'année passée avec son incident du Tour d'Italie, l'a mis devant son écran de télévision sur son canapé et il a vite compris que ce n'était pas sa place. Il a pris conscience peut-être encore plus que d'habitude de ce qu'était le Tour de France et de l'envie qu'il pouvait en avoir.
Hier, Thibaut Pinot a terminé l'étape dans la roue de Geraint Thomas. 7e au classement général, il devient la carte tricolore de ce Tour de France. La planche des belles filles, Marguerite Lefèvre, Europe 1.
Et puis autre rendez-vous sport du jour, la 40e confrontation entre Rafael Nadal et Roger Federer, demi-finale de Wimbledon, un mois après la victoire de l'Espagnol à Roland-Garros face aux Suisses. On dit allez Roger.
Mais oui, on le dit. Voilà. Anissa Haddadi, elle préfère Rafael Nadal, mais comme elle n'est pas là, nous on est pour Roger.
On en profite.
Ouais, merci beaucoup Marion Calais. Prochain point sur l'actualité à 10h58.
Souriez, c'est l'été. Et vous êtes bien sur Europe 1.
En vue du décollage, veuillez régler votre poste sur Europe 1. Merci de votre attention.
Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été.
Et oui, c'est la deuxième heure de ce club de l'été d'Europe 1, toujours en direct et jusqu'à 11h pour partager des bons plans pour découvrir le patrimoine et la gastronomie française autrement. La comédienne Gwendoline Hamon est avec nous.
La comédienne.
Ce que j'allais dire, Gwendoline Hamon est avec nous depuis 9h. Vous n'hésitez pas à réagir sur Twitter via le hashtag Europe 1. L'Ispressa qu'on va s'envoler pour le Cap Ferret ce matin. Pour quel site en particulier?
On va aller dans le village de L'Herbe, qui est donc au Cap Ferret. On va manger des huîtres et se balader.
Eh ben c'est parfait. Olivier, attendez 2 secondes. Olivier, on est quel jour aujourd'hui?
Je crois le 12 juillet.
Le 12 juillet. Bonne fête, mon cher Olivier.
Ah, merci.
Vous pensiez que j'avais oublié, Olivier. Mais non, j'avais prévu de le dire à ce moment-là, vous voyez?
Et alors le cadeau
Ça va arriver.
C'est notre présence, Olivier.
C'est notre présence, notre intelligence, notre beauté, vous voyez?
C'est vrai qu'être entouré comme ça le jour
vous
de sa
fête. Vous êtes bien quand même.
C'est
hein
vraiment, mais ça va être ma fête jusqu'à la fin du mois.
Exactement. Et on va déguster quoi alors au bord de l'eau au Cap Ferré?
Bah, quelques huîtres. Moi,
d'accord,
sur les coups de 10h45, je commence à avoir un peu envie d'iode.
Voilà, c'est parfait.
Mon corps réclame.
Le club de l'été, 2 heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Et oui, nous sommes le vendredi 12 juillet, c'est le jour de la Saint-Olivier et on reçoit Gwendoline Hamon.
Gwendoline, je salue tous les Oliviers qui nous écoutent.
Oui, exactement. Je vous propose de remonter le temps en musique, Gwendoline. Est-ce que vous avez une idée de la chanson qu'on écoutait l'année de votre naissance, l'été de l'année de votre naissance?
Ah non, absolument pas.
C'était ça.
L'Amérique, je veux la voir.
Est-ce que vous avez rêvé d'Amérique?
Ah bien sûr, ouais. J'ai rêvé d'Amérique. J'en ai rêvé et j'y suis allée pour la première fois, j'avais 24 ans. Donc tardivement, enfin j'ai été heureuse, je suis arrivée à New York et j'aime toujours autant cette ville qui grouille. Bien sûr que j'ai rêvé d'Amérique.
Alors en 1990, quand vous débutez votre carrière de comédienne, il y a une chanson qui envahit les ondes d'après vous, surtout l'été.
Française ou
oui, une chanson française. Vous la connaissez par cœur.
Une danse.
Une danse.
La danse des canards?
Non.
Pour aller danser le jerk. Sur de la musique basse.
ça marche toujours.
J'ai dansé sur ça. Dansé sur le jazz.
Et alors en 2015, l'été 2015,
c'était Thierry Hazard.
C'était Thierry Hazard. Pardon, j'ai pas dit le titre exact, Olivier Post. Thierry Hazard, le jerk. Et en 2015, quand vous endossez le rôle de Cassandre à l'été 2015, vous savez ce qu'on écoute?
Non.
Ça.
Ah, mais j'adore.
Je me suis dit que ces trois morceaux, ils vous allaient bien quand même. Hein. Vous avez vu le timing,
c'est
incroyable.
Ouais,
hein.
C'est vrai.
Vous vous souvenez la dernière fois que vous avez dansé?
Oui, avant-hier.
Avant-hier,
avant-hier comme une folle jusqu'à 3h du matin pour la fête de fin de tournage.
Et vous dansiez sur quel genre de musique?
Bah là, il y avait de tout, mais il y avait même du rap. Mais moi, quand je suis heureuse, je peux danser sur n'importe quoi. Hein.
D'accord. Ouais. Vous avez dansé sur Maître Gims donc?
Ah, non, c'était anglo-saxon, mais je peux pas vous dire les noms, je suis nulle.
D'accord.
Mais
c'est sympa les fins de tournage?
Ça dépend lesquels, mais là, c'était très, très sympa. Surtout quand on est éreinté, donc on n'a plus de neurones, et puis on boit 2-3 petits verres, et on est heureux, quoi. Et
avec
surtout,
c'est,
on se retrouve avec l'équipe.
Bah, c'est très bien. Et nous aussi, on va danser, tiens. On va danser un peu plus tard, vous allez voir. Si on quittait Paris pour le Cap Ferré, c'est pas mal comme projet,
c'est
non,
très,
les amis?
C'est un beau projet.
C'est un beau projet,
ouais.
Allez, à tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Le Club de l'été sur Europe 1.
Nous sommes toujours en direct, il est 10h11 sur Europe 1 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec notre invitée, la comédienne Gwendoline Hamon. Si vous croisez Gwendoline Hamon dans la rue et que vous la voyez, et que vous la voyez embrasser son genou, tout est normal. Oui. Racontez-nous Gwendoline, qu'est-ce qui se passe?
Mais je viens de voir, il y a une minute qu'il était 10h10 et je me suis embrassée le genou parce que mon fils, il y a 3-4 ans, m'a dit qu'il fallait s'embrasser le genou à 9h09, 10h10, 11h11, etc. Et donc, quelquefois, je ne suis pas dans une situation privée où je peux le faire naturellement et je pense à lui, il m'a dit que ça portait bonheur. Et donc, je m'arrête dans la rue, je fais comme si j'avais un problème au genou. Je me plie en quatre, je sens mon genou. Et puis, quand personne ne me regarde, enfin, je crois qu'il y a quand même des gens qui me voient, je m'embrasse.
Vous embrassez,
le genou.
Voilà.
Et je m'en fous. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre, je prends le positif.
Donc, quand je vous disais que Gwendoline Hamon avait sa carte VIP dans ce club de l'été où on est tous tordus, selon le grand chef Christian Lescar qu'on a reçu cette semaine, vous voyez, ça marche. Gwendoline, on va parler un peu de culture avant de partir pour l'océan avec Lise Pressac. Et on va commencer ce journal de la culture, Lise, à Boulogne-Billancourt, en région parisienne.
Oui, où je suis née.
Exactement. Oui. Rendez-vous à la scène musicale pour le festival Afropunk. C'est la 5e édition parisienne de ce festival qui a été créé à New York en 2005. Alors ce soir et demain, donc à Boulogne-Billancourt, les têtes d'affiche sont féminines. L'américaine Janelle Monáe, il y aura les jumelles franco-cubaines IBI. La jeune rappeuse anglaise Little Sims et Solange Knowles, la sœur de Beyoncé. You can get it. Uh-huh. You can get it. Uh-huh. You can get it. Donc toutes ces talentueuses chanteuses sont à voir à Afropunk, c'est samedi et dimanche à la scène musicale. Il y a aussi, des hommes, hein, mais
on préfère les femmes.
Afropunk, voilà. C'est un concept. Hein,
Afropunk. Ouais. Si vous êtes à Paris ce week-end et que vous aimez le théâtre, Lise, vous avez un bon plan pour nous.
Oui, c'est une tradition annuelle à la Comédie Française. La représentation du 14 juillet est gratuite. Alors dimanche à 14h, salle Richelieu, vous pourrez voir la pièce L'Hôtel du Libre-Échange de Georges Feydeau, mise en scène par Isabelle Nanty. Les places gratuites sont à retirer le jour même dans le péristyle de la salle Richelieu à partir de 13h. C'est donc une heure avant la représentation. La distribution se fait par ordre d'arrivée et avec seulement une place par personne. Donc il n'y en aura sans doute pas pour tout le monde.
Ah oui, ça c'est clair. Et enfin, direction le sud. Mon sud.
C'est le condensé de tout ce que vous aimez, Eva.
Ouais.
Du jazz et Antibes Juan-les-Pins.
Voilà.
Le festival jazz à Juan.
Il manque la pisse à la dière.
Oui, mais il y en aura forcément. Ouais. Le festival jazz à Juan débute aujourd'hui. On est en ligne avec Béatrice Divita qui travaille à l'office de tourisme d'Antibes Juan-les-Pins. Bonjour Béatrice.
Bonjour Lise.
Alors on est déjà convaincu avec Eva, mais dites-nous pourquoi il faut venir au festival Jazz à Juan.
Vous avez trois bonnes raisons d'aller découvrir ce festival. Tout d'abord, vous avez un site exceptionnel. Eva connaît très bien.
Oui.
Eva, tu connais ce site.
Une Pinède.
La scène. Ouais, une Pinède. La scène est située en fait dans cette Pinède, face à la mer, et ça, c'est vraiment unique. Une scène dont les couchers de soleil font rêver tous les musiciens du monde, et puis surtout pour les spectateurs, le bonheur d'écouter du jazz avec un panorama inoubliable, un environnement magique, le bruit des mouettes, des vagues, et ça c'est vraiment unique.
Et il y a aussi une programmation de qualité pour ne rien gâcher, il y aura notamment George Benson samedi 13, Diana Krall vendredi 19. Fly me to the moon, let me play among the stars. C'est aussi ça, Jazz à Juan. Il y a donc les artistes confirmés, il y a aussi des petits nouveaux, mais il y a quand même la crème de la crème.
Oui, il y a la crème
c'est
de la
fidèles,
crème.
Hein,
donc,
ouais.
Vous avez par exemple Ben Harper ou encore Jamiroquai qui se produira le 18 juillet et ce sera son premier concert à Juan-les-Pins. Et
Ben Harper, vrai, je précise, pardon Béatrice de vous couper, Ben Harper qui vient de faire un magnifique album pour Mavis Staples, une grande chanteuse de blues et de jazz dont on a parlé en début de semaine.
Absolument. Et puis on a aussi pour la soirée du 16 juillet, King Crimson, qui se produira lui aussi pour la première fois à Jouan. Donc vous voyez, vous avez des anciens comme Benson, Diana Krall, et puis des groupes nouveaux qui vont appréhender cette scène mythique.
Il y aura aussi deux soirées gratuites, les 14 et 21 juillet. Comment ça se passe ?
Ben, ces deux soirées gratuites sont d'abord très attendues par les Antibois et les Juanais, et ça c'est vraiment très appréciable. Le dimanche 14 juillet avec trois concerts, avec Omri Mor, qui est un merveilleux pianiste israélien. On aura aussi la chance d'accueillir Ekram, qui est un chanteur et guitariste chinois. Et pour terminer, Electro Deluxe, qui est un groupe de jazz français avec un petit mélange de funk, de soul et d'électro. Donc c'est une soirée qui sera très colorée avec le fameux feu d'artifice qui sera tiré en baie de Juan-les-Pins à 22h30. Donc ça, c'est un moment magique. Et la deuxième soirée gratuite, Liz, c'est le dernier jour du festival, le dimanche 21 juillet. C'est une soirée qui est très riche en émotions puisqu'elle est précédée d'une célébration œcuménique. Et ça, c'est vraiment
gospel,
une tradition à Juan. Oui, tu sais, Eva, que pour y avoir assisté à plusieurs reprises, qu'elle a été initiée pour la première fois il y a très longtemps, en 1965. Oui. Et c'est vrai que cette soirée, au cours de cette soirée, on va accueillir un groupe, le New Gospel Family. C'est un groupe de chanteurs.
Qui est génial,
Oui,
qui était déjà venu à Juan-les-Pins, si je me souviens bien.
Alors, non, c'est la première fois qu'ils vont... Non, mais c'est pas grave. C'est la première fois qu'ils vont fouler la scène de Juan. La moyenne d'âge, c'est 25 ans. Par contre, ils se sont produits déjà 3 fois à l'Olympia et 4 fois au Zénith de Paris.
Et ben voilà, je confonds Antibes et Paris maintenant, Béatrice Zivita. Vous voyez,
voilà,
ça y est.
Voilà,
deux maisons,
Antibes
Eva.
Et Paris.
J'ai perdu mon âme d'antiboise. Et j'ai envie de dire, c'est la 59e édition de Jazz à Juan. Donc, on a hâte d'être déjà aussi l'année prochaine pour un 60e anniversaire qu'on imagine grandiose, Béatrice Zivita.
Oh, absolument. Je vous laisse, Eva, imaginer le programme de l'année prochaine et de toutes les festivités qui iront avec.
On sera obligé de venir.
Il y aura énormément de surprises. Ce sera un grand moment pour fêter ce festival historique.
Merci beaucoup, Béatrice Zivita. On était très heureux de vous entendre ce matin.
Merci.
Jazz à Juan, c'est à partir de ce soir et c'est jusqu'au 21
Merci
juillet.
Beaucoup.
Allez-y. Gwendoline Amon me dit, c'est jusqu'à quand ? Jusqu'au 21,
21
juillet. Mais non, mais vous avez déjà prévu des vacances partout. Ben
oui,
mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes trop hyperactive.
Par contre, moi, je suis disponible. Si
vous êtes disponible ?
Ah, ouais, bien sûr.
Je vais vous concocter un petit programme, vous allez voir. Vous allez vous régaler. On va changer d'univers musical pour finir cette séquence avec un groupe dont on ne se lassera jamais. Téléphone et sur Europe 1.
We'll be right back.
téléphone à qui notre consoeur et amie Émilie Mazoyer a consacré une magnifique émission cette année, une émission qui sera rediffusée dimanche dès 20h sur Europe 1. Ne loupez pas ça.
Le club de l'été sur Europe 1, 9h-11h, Eva Rock.
Et il est 10h22 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1 pour ce club de l'été. Vous êtes les invités de ce club et vous êtes les bienvenus tous les matins de 9h à 11h. On s'occupe de tout, de vous, on vous fournit la culture, les bons petits plats, les idées pour découvrir la France, les recettes d'Olivier Poulouse, tout ça, tout ça. Et puis grâce à vous, Gwendoline Hamon, eh bien aujourd'hui on part pour le Cap Ferret. Quand vous pensez à cette région, quelle est la première odeur qui vous vient ? J'ai dit odeur.
Eh oui. Oui, odeur. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire l'odeur de l'huître. Hein.
Eh bien voilà, on va l'iode. En parler dans quelques instants avec Olivier Pouls. Mais Lise, on va d'abord découvrir un lieu, un village qui est absolument magnifique d'après les photos que j'ai pu en
oui,
voir.
Oui, puis je crois qu'on sent l'odeur de l'huître aussi là-bas. Ah, c'est dans un village qui s'appelle L'Herbe. Il est situé donc au Cap Ferret entre une dune boisée et le bassin d'Arcachon, un petit village de pêcheurs. Et on est en ligne avec Julien Lataste, guide touristique indépendant. Bonjour Julien.
Bonjour.
Alors parlez-nous un peu de ce village. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ?
Alors ce village, il est absolument exceptionnel. C'est pour moi, bon, il y a trois maîtres mots pour moi. C'est le premier mot, c'est le mot pittoresque qui me vient en tête, authentique. Et puis c'est aussi un lieu de tolérance exceptionnel du coup, parce qu'on y trouve une petite pépite architecturale qui est une chapelle catholique de style néo-mauresque, une chapelle algérienne comme on l'appelle. Et c'est vraiment des lieux absolument exceptionnels qui viennent s'entremêler comme ça, comme vous le disiez si bien, voilà, entre une dune boisée et le bassin d'Arcachon, qui est un petit coin de paradis par chez nous en Gironde. Et ce petit village, du coup, est vraiment totalement à part sur la presqu'île.
C'est très, 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 très coloré hein, quand, ouais. quand on regarde les photos. C'est incroyable. Hein.
Exactement. Ouais. C'est un petit village magnifique qui est habité en fait, par des ostréiculteurs, par des plaisanciers, des pêcheurs. Et ce ne sont que des petites cabanes ostréicoles standardisées de 6 mètres sur 4, du coup, très colorées, très fleuries, du coup, avec des petites allées qui donnent directement sur le bassin d'Arcachon. Et c'est un endroit qui est absolument magique.
Alors, vous êtes guide, Julien, quel est votre itinéraire idéal ? Quand on arrive à L'Herbe, vous nous emmenez où, par exemple ? Justement, directement à la villa algérienne ?
Exactement, voilà. Ouais. Mais je vous invite d'ailleurs à venir une prochaine fois avec moi pour découvrir tout
on
ça.
On arrive tout de suite. Hein.
Et racontez-nous...
Tous et tous invités, du coup, on ira voir effectivement voilà, la chapelle algérienne en premier lieu. C'est un lieu qui est, je vous le disais, magique. C'est le mot juste. Il est en plus juste en face de la dune du Pilat, la plus grande dune de sable d'Europe. Le panorama est exceptionnel. Et c'est une petite chapelle donc dite néo-mauresque parce que viennent s'entremêler du coup des symboles architecturaux typiques de l'architecture mauresque du coup, mais aussi de l'architecture plus locale du coup des villas balnéaires comme on peut trouver sur la ville d'Arcachon, avec notamment, comme je vous disais, le premier mot qui me vient à l'esprit c'est la tolérance parce que vous avez du coup notamment la croix catholique qui s'entremêle avec le croissant de l'islam du coup au sommet de la chapelle, des tuiles qui nous rappellent des écailles de poisson avec l'étoile également de l'Algérie. Vous avez des tours inspirées directement des minarets, une porte mauresque ciselée, du coup, avec des circonvolutions magnifiques au sommet. Et puis à l'intérieur, vous avez également, du coup, des symboliques locales, un bateau de pêche, du coup, qui vient pendre directement depuis la voûte, un filet de pêche au sommet, des bénitiers en coquillage. C'est vraiment voilà, un enchevêtrement de style qu'on peut trouver à l'intérieur, elle est unique en son genre. Ouais,
mais c'est quoi l'histoire de ce lieu ? Parce que pourquoi il y a ce lieu, justement, ici
qu'on C'est une petite histoire assez particulière, en fait, qui vient d'une famille, de La Teste, qui est la plus grande ville du bassin historiquement, qui est de l'autre côté, qui est juste en face de L'Herbe, la famille Lesca. Et le patriarche, du coup, Jean Lesca, avait décidé de devenir exploitant forestier à la fin du XVIIIe siècle, puisqu'on est dans une immense région forestière aujourd'hui, mais c'est l'être humain qui est venu planter la grande forêt des Landes. Et ses fils, en fait, ont voulu faire perdurer le travail de du patriarche de la famille. Ils ont monté les distilleries de résine du bassin côté sud pour son fils aîné Frédéric, et c'est surtout du coup le frère cadet pardon de la famille qui a développé du coup cette activité. Et lui était architecte du coup, Léon Lesca, il est parti en Algérie, il a participé à la construction du port d'Alger, et du coup il est revenu vivre dans sa région natale et tombé amoureux qu'il était de l'architecture mauresque du coup à Alger. Il a décidé en fait d'acheter un petit lieu de 25 hectares au milieu des 10 000 hectares de forêt côtière, un petit lieu du coup en front de mer sur le bassin d'Arcachon, qui est devenu le village de L'Herbe par ailleurs. Et du coup, il y avait construit une magnifique villa ici en 1865, une villa mauresque justement, qui malheureusement n'existe plus. Elle a été centenaire et au bout de 100 ans, un promoteur l'a rachetée pour la transformer en logement. Mais par contre, il avait aussi fait construire cette petite chapelle juste à côté. Qui est une chapelle familiale, du coup une chapelle privée, mais aussi, je vous le disais, un lieu de tolérance et d'accueil, puisque des ouvriers algériens l'avaient suivi, du coup, depuis Alger. Et c'était pour ça qu'il avait voulu symboliser, justement, voilà, ce mélange de catholicisme et d'islam au sein de ce tout petit lieu, je vous le disais. Et donc, du coup, c'est ainsi qu'est né, voilà, ce ce petit
bijou.
Exactement, ouais, c'est le mot juste, voilà, ouais, en plein milieu de ce petit lieu-dit de 25 hectares. Et en fait, ces ouvriers sont sédentarisés sur place. Il a développé l'activité forestière et le gainage, la récolte de résine sur la presqu'île de l'Eche-Cap-Ferré. Et l'ostréiculture également, c'est lui qui a l'origine.
On va en reparler, figurez-vous.
Oui, on va en reparler parce que j'ai l'impression qu'on va forcément manger aussi des huîtres là-bas. Merci beaucoup, Julien.
Merci.
Et si on vient à l'herbe, vous nous ferez une visite. Hein.
Exactement.
Avec grand plaisir.
Merci, Julien Lattaste, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes guide touristique, vous connaissez bien ce village.
Oui, très bien.
On va en reparler, puis on va reparler surtout d'huîtres. Ça, je sais aussi que vous connaissez. Toutes les infos, elles sont à retrouver sur Europe1.fr, évidemment. On se retrouve dans quelques minutes, justement, avec des huîtres, et ça sera en direct sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1.
C'est la suite du club de l'été en direct avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. Gwendoline Hamon est avec nous depuis ce matin à 9h. Est-ce que vous êtes du genre gourmande?
Ah, je suis très gourmande, c'est atroce.
C'est vrai?
Ah oui.
Mais
faut pas s'excuser.
Hein. Non, faut pas s'excuser.
Si, si, parce qu'il y a un moment, il faut quand même se gérer et je me gère pas du tout de ce côté-là.
Il faut se gérer quand on est comédienne encore plus.
Bah bien sûr. Et oui. Est-ce que vous savez qu'on prend des kilos à l'écran?
On est plus gros
à l'écran qu'on est dans
c'est
la vie.
C'est pour ça qu'on fait de la radio, nous.
Voilà.
Si vous prenez 3 kilos en fait dans la vie, vous en prenez 6 à l'écran.
Ah,
c'est un peu emmerdant.
Est-ce que vous pouvez le répéter? Parce que quand je dis ça aux gens, ils ne me croient
mais
pas.
Mais c'est la vérité.
Merci beaucoup, Gwendoline Hamon. Olivier Pouls, ça sent un peu l'iode au Cap Ferré, hein, on est d'accord?
Oui, puis là, on va pas prendre 2 kilos. Hein, parce que franchement, l'huître, c'est
vrai,
c'est la bonne gourmandise.
Oui, c'est pratiquement calories zéro.
Il faut pas rajouter la saucisse en même temps.
Oui.
Voilà, parce que c'est vrai que l'une des traditions, on va en parler dans un instant, au Cap Ferré, c'est qu'on mange les huîtres avec la saucisse. Je ne sais pas si vous pratiquez ça.
Ah oui, je pratique tout, moi.
C'est vrai?
Oui. On mange, je suis multitâche.
Mais pourquoi?
Oui, très petite saucisse grillée à côté. Bah, voilà,
petit,
c'est
pâté,
une tradition.
Petit pâté à côté, c'est une tradition. Et petit verre de...
Ah bah, de vin blanc, évidemment.
Voilà. C'est quoi? C'est l'association Terre-Mer, en fait?
Oui, c'est,
que vous faites,
et puis, hein. C'est une tradition. C'est vrai que ça marche assez bien. Vous avez un petit coup de mer, hop, un petit coup de terre, et puis hop.
On parlait du village de l'herbe. Vous le connaissez particulièrement, ce village, Gwendoline
Hamon? Je le connais très bien, puisque mon père est né à Arès, à côté, était à l'école au Cap Ferret, et sa mère était la pharmacienne du Cap Ferret. Et du côté à Nouilles, mes grands-parents avaient une très belle villa en face de la pharmacie. Mes parents se sont rencontrés comme ça.
Et
Caroline est enceinte du fils de la pharmacienne. Ben oui, c'était moi.
Est-ce que vous avez des petits endroits secrets où aller manger les huîtres? Parce qu'on parlait justement de ces petits cabanons qu'on trouve
secret,
tout au long
je
du
je peux
bar...
pas vous dire secret. Effectivement, à l'herbe, il y a des petits cabanons où on peut manger l'huître en regardant le bassin. Il y en a un au Mimbo aussi, il y a la cabane Barterotte. Ça, maintenant, il y en a de plus en plus. Mais ce sont des endroits poétiques, en fait. Et puis joyeux, mais il n'y a pas d'endroit véritablement secret parce que le Cap Ferret, je ne sais pas si vous êtes au courant, cher monsieur, que le Cap Ferret s'est beaucoup démocratisé.
Oui.
C'était un coin perdu où mon grand-père avait envie de se planquer et aujourd'hui, les gens sont partis d'Arcachon. Enfin, certains y sont restés, mais ils ont tous débarqué au Ferret.
Et oui.
Donc, secret, c'est difficile. Il faut y aller un peu hors saison.
Ben ouais,
c'est
toujours mieux. Je vous propose qu'on se téléporte tout de suite au bord du bassin et retrouver Olivier Laurent qui est ostréiculteur. Peut-être
bonjour.
Les pieds dans l'eau.
Bonjour, Olivier.
Bonjour
bonne
à vous
fête,
tous.
Bonne fête,
bonjour.
Cher Olivier, bonne fête
hein. Olivier. C'est la fête des
Merci,
Olivier.
C'est gentil, ça tombe bien.
Bon, est-ce que les huîtres sont prêtes pour l'apéro là?
Les huîtres sont prêtes. Mmh. Pour midi, on les attend. Pour ce soir, elles sont encore dans l'eau. Elles attendent au frais.
Donc vous les pêchez au fur et à mesure hein.
Alors, on pêche régulièrement tout au long de l'été. Et après, on a des bassins de stockage où on les purifie et on permet de les stocker pour les avoir dans les meilleures conditions pour les manger.
Alors, normalement, on dit que la grande saison de l'huître, c'est pas forcément l'été. Justement, on avait appris que l'huître, elle était meilleure, elle était moins grasse en hiver. Mais aujourd'hui, vous êtes quand même en mesure de proposer des huîtres toute l'année.
Voilà, nous on est en mesure, on travaille toute l'année. Autrefois, les ostréiculteurs étaient souvent aussi des pêcheurs, donc ils avaient des activités plus saisonnières. Et maintenant, nous, les professions se sont bien séparées. Et maintenant, les pêcheurs travaillent toute l'année, les ostréiculteurs aussi. On a appris à travailler l'huître toute l'année avec les moyens techniques de maintenant. Et on arrive à faire des choses régulières toute l'année. On arrive à un joli produit à présenter toute l'année. On a de l'huître laiteuse l'été aux clients qu'on propose. Et éventuellement, on a de l'huître non laiteuse qu'on peut aussi proposer dans les dégustations ou au marché.
Olivier Laurent, depuis combien de temps vous êtes installé au Cap Ferret?
Moi, au Cap Ferret, ça ferait 17 ans que je suis à mon compte.
17 ans. 17 ans, ouais. Vous êtes dans le village de l'herbe.
Voilà, 17 ans qu'on est à l'herbe. J'étais même un petit peu avant parce que j'ai eu la chance d'être salarié dans l'entreprise que j'ai repris.
Et vous avez vu les lieux changer ? Gwendoline Hamon disait que ça s'est un peu démocratisé, donc il y a beaucoup de monde qui vient. Est-ce que vous le constatez aussi ?
Sur les 10 dernières années, c'est sûr que ça a accéléré fortement. Nous, côté professionnel, autrefois, on n'était que des producteurs d'huîtres. On allait tous au marché où on faisait l'expédition. Maintenant, il y avait une dégustation, voire deux l'été. Maintenant, on est 9 dégustations sur 11 producteurs sur le village de l'Herbe. Alors, on s'est ouvert aux gens.
On avait un petit débat avec Gwendoline sur huîtres plates ou huîtres creuses. Alors évidemment, la creuse est très largement majoritaire. La plate reste quelque chose d'un peu...
La plate est plus chère.
Un peu plus chère, plus exceptionnelle, plus rare. Vous faites les deux ?
Alors non, sur le bassin d'Arcachon, on n'a plus la chance de pouvoir faire de l'huître plate.
Non.
Maintenant, l'huître plate, il y a eu une maladie qui l'a décimée dans les années 70. Et en fait, maintenant, on ne peut plus, élever de la plate. On en stocke quand on achète à nos collègues bretons, mais c'est tout. Voilà. Après, c'est vraiment que du stockage. À court terme. Voilà. C'est un peu réservé à la Bretagne, on va dire, l'huître plate.
Ouais, mais c'est pour Gwendoline. Ça, c'est parce que je suis bretonne. Moi, je suis bretonne et ferré-capienne.
Ah oui, mais j'aime les deux.
huître saucisse, alors ?
8 saucisses ou 8 pâtés dans les dégustations, voilà. Puisque comme on n'a pas droit aux cuissons, 8 pâtés dans les dégustations.
Moi, je viendrai vous voir, j'arrive le 20, je reste 15 jours.
Avec plaisir.
on apportera le coup de blanc qui va avec, et puis on va vous laisser les pêcher tranquillement. Ouais,
vous avez dit, on va vous lécher ? Vous avez dit ça ?
Vous
avez dit ça, Olivier. Merci beaucoup, Olivier Laurent, d'avoir été avec nous ce matin. Vous nous avez donné un petit goût de diode dans vos propos.
Avec plaisir, tous les producteurs vous attendent tout l'été.
C'est adorable. Merci infiniment. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Olivier, comme l'an dernier, vous nous proposez de terminer cette séquence avec un fact-checking culinaire. On passe en revue en fait les vrais faux de notre culture gastronomique. L'affirmation du jour, c'est: est-ce que le café court est plus fort que le café long ?
Alors, une idée peut-être ?
Eh bien, moi, je crois que non. Il n'est pas plus fort. Il est plus fort au goût, mais il n'est pas plus fort dans l'effet de caféine. De toute façon, je ne bois pas de café, moi. C'est pas difficile. Alors, j'aime que le jus de chaussette décaf.
Alors, détrompez-vous, parce que là aussi, on pense que le décaféiné ne contient plus du tout de caféine. Ce n'est pas vrai. Il y a quand même encore des résidus de caféine dedans. Et puis, ce n'est pas un café terrible.
Non, c'est pas bon.
Parce que pour enlever la caféine, justement, on utilise des produits qui ne sont pas top. Et on trouve des résidus là-dedans aussi. Alors, pour répondre très rapidement à la question, oui, le café court a plus de goût, mais il contient moins de caféine, parce que la durée de contact entre l'eau et le moût de café, la mouture, est plus courte, quelques secondes quand on passe notamment au travers une machine à expresso, alors que quand on fait un bon vieux café filtre, le café met parfois 3 à 4 minutes pour s'écouler, et donc il a le temps de s'imprégner beaucoup plus de la caféine, et donc vous avez des doses de caféine qui sont parfois du simple au triple par rapport
quand même.
Alors en plus, le café court, on en prend très peu.
Oui.
Alors que le café long, on va en prendre une tasse complète. Donc au final, si on ne veut pas de caféine ou si on n'en veut pas beaucoup, plutôt un petit espresso ristretto plutôt qu'un café qui a coulé longuement.
Sinon, si on ne veut pas de caféine, on peut aussi boire du thé vert.
Ah non, pas du tout. Alors,
la théine.
Mais la théine et la caféine, c'est exactement la même chose.
Oui, ça vous fait le même effet.
Exactement.
Il faut prendre des théinées.
Oui, mais c'est pareil, elles sont lavées. Donc si on ne veut pas de caféine, on boit de l'eau.
Voilà, on boit de l'eau. Et Olivier, il dit on boit de l'eau. C'est bien la première fois que je l'entends prononcer cette phrase. Merci beaucoup, Olivier. On est d'accord. Après le Cap Ferret, on va partir pour 3 autres balades en France à bord d'un train. A tout de suite sur Europe 1. Oh non.
Europe 1, le club de l'été. Eva Rock.
Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec les deux experts Olivier Pouls et Lise Pressac. Gwendoline Hamon, je sais que vous aimez voyager. C'est plutôt train, voiture, avion, cheval, navette spatiale.
Ah, j'aime tout, moi.
J'aime tout dans tout. D'accord.
Tout me plaît.
Et bien alors, Lise Pressac, ici présente, vous a trouvé 3 destinations qui vont vous plaire, je pense.
Oui.
Puisqu'on part à bord d'un train. Ouais. Il est plus sympa que le TGV qui nous a
rendu l'Orient Express.
C'est mon rêve.
J'adorerais prendre l'Orient Express et faire un grand voyage.
C'est magnifique.
C'est mon rêve, c'est hors de prix,
mais,
c'est mon rêve.
Oui, voilà. Donc, mais pareil, on est d'accord, Lise Pressac. Là, pour l'instant, on va partir pour les Pyrénées Atlantiques.
Voilà, c'est plus abordable. Je vous propose de prendre un peu de hauteur à bord du train d'Artoust. C'est dans la vallée d'Ossau, à quelques kilomètres de Lourdes. Alors, le train culmine à 2000 mètres d'altitude. C'est le plus haut d'Europe. Il a été construit en 1920 afin de transporter les ouvriers du barrage du lac, qui était juste à côté. Depuis 1932, le train est devenu une attraction touristique. Il y a 10 km de voies étroites à flanc de montagne pour admirer le panorama. C'est sublime. Alors pour vous y rendre, il faut prendre la télécabine au départ du lac de Fabrèche. C'est à 1250 mètres d'altitude déjà. Jusqu'à la gare de départ du train, c'est au pic de la Sagette à 1950 mètres. La montée dure 15 minutes et ensuite le train dure 50 minutes aller, 50 minutes retour. Il y a plusieurs formules possibles selon le temps que vous avez. Vous pouvez vous balader toute la journée ou bien vous avez un temps libre d'1h20 pour vous promener sur le sentier vers le lac d'Artoust qui se trouve à 15 minutes à pied de la gare. Donc entre la télécabine, le train, la promenade, il faut compter minimum 3h30. Le billet adulte coûte entre 26 et 32 euros, c'est entre 18 et 24 pour les 4-12 ans. Et il y a un départ toutes les demi-heures entre 9h et 17h jusqu'au 1er septembre et le train est ouvert jusqu'au 29 septembre.
Formidable avec les enfants à
c'est
faire.
C'est super.
Ça c'est bien. Alors on va quitter les Pyrénées-Atlantiques pour les Côtes d'Armor.
Pour prendre le vapeur du Trieux,
c'est bien entre un vapeur.
Ouais, entre
Paimpol. Mon pays, les Côtes d'Armor.
C'est vrai. Ah ben voilà.
Vous avez beaucoup de pays.
Ben non, c'est-à-dire que j'ai un père breton donc.
Et voilà. Entre Paimpol et Pont-Trieux, c'est un train touristique qui a été mis en service en 1997. Il longe la rivière du Trieux sur une quinzaine de kilomètres. Alors sur le parcours, vous verrez à votre droite le pont suspendu de Lézardrieux, le manoir de Traounet, à votre gauche la forêt de Penouat, mais aussi le château de La Roche-Jagouche, j'espère être employé pour
eux,
et le pont de Frinaudour. Alors, le parcours est récent, mais les locomotives sont anciennes, elles ont été construites entre 1911 et 1917. Elles ont appartenu en fait au réseau des chemins de fer de l'Est et elles ont participé au ravitaillement du front durant la Première Guerre mondiale, notamment lors de la bataille de Verdun. Aujourd'hui, elles permettent simplement une belle balade le long de la rivière. Le trajet dure 1h20 à l'aller et à la fin, vous avez une halte avec une animation. Il y a des contes, de la musique, des jeux, ça change chaque jour. Le retour dure, lui, 35 minutes entre Pont-Trieux et Paimpol. L'excursion coûte 23 euros pour les adultes, c'est 16 euros pour les enfants de 4 à 13 ans. Il y a des passes famille, deux adultes, deux enfants à 62 euros. Et ce vapeur est en service jusqu'à mi-septembre.
Mais là aussi, c'est génial de faire avec les enfants.
Ah oui, c'est extraordinaire.
Si en plus, il y a des animations à la fin.
Ouais.
Et puis, on va partir pour le Puy-de-Dôme pour terminer ce Tour de France des trains.
Oui, grimpons à bord du Panoramique des Dômes. C'est un train électrique à crémaillère qui vous emmène en 15 minutes chrono en haut du Puy-de-Dôme. Le train a été mis en service en 1907. Alors à l'époque, il n'était pas électrique, hein, mais il fonctionnait à l'eau et au charbon. Et il ne fallait pas 15 minutes, mais 1h45 pour un trajet de près de 15 km. Alors une fois arrivé au sommet, aujourd'hui, vous pourrez admirer un panorama à 360 degrés sur les volcans endormis de la chaîne des Puys et à la plaine de la Limagne, Clermont-Ferrand et le massif du Sancy. Vous pouvez marcher ensuite quelques mètres pour découvrir le géant des Dômes. C'est le site mythique symbole phare de l'Auvergne. Le billet coûte 15,10 € pour les adultes, 9,10 € pour les enfants de 4 à 12 ans. Il y a aussi des passes familles, 39,60 pour deux adultes et deux enfants. Et il y a même un tarif pour les chiens, 4,30 € si vous voulez monter avec votre chien. Il y a un départ toutes les 20 minutes de 9h à 20h40 tout l'été. Et le train, il faut le noter, est accessible aux personnes à mobilité réduite et il circule toute l'année.
Très bien. Alors Gwendoline, qu'est-ce que vous choisissez ? Vous choisissez les Pyrénées-Atlantiques, les Côtes d'Armor le Puy-de-Dôme ?
J'ai pas le choix.
On vous emmène aux Côtes d'Armor.
Et c'est vrai que le voyage en train, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
Absolument magique.
J'adore ça, moi. Je prends le train tout le temps, beaucoup plus que l'avion. J'en peux plus des trucs de sécurité où on finit en petite culotte. Non, mais c'est atroce, quoi. Et en plus, je fume une cigarette électronique. Alors, je vous dis pas le bordel avec les piles et tout. Non, moi, je prends le train. Je m'installe. On peut tout faire.
C'est vrai.
On peut dormir, voir un film, discuter, se lever, faire pipi. C'est magnifique.
Voilà, exactement. La SNCF va vous prendre comme hôtesse pour faire la prochaine.
Je le prends beaucoup et c'est quand même très chiant. Ils sont tout le temps en retard. Ils ont toujours un problème.
Ah, voilà, ça y est.
Vous avez perdu le contrat.
Vous avez perdu le contrat de
Gérard. Tout à coup, on s'arrête 4 heures dans la voie. Ils enlèvent la clim. Je cours. Enfin, j'aime bien le train.
Voilà. Élise, elle vous propose de partir à la plage. Tous à la plage.
Oui, tous à la plage. Tous à la plage, c'est le nom d'une application qui a été lancée par le journal Le Télégramme qui permet aux internautes de noter les plages bretonnes.
Ah ben voilà,
alors,
encore en Bretagne, vous voyez.
On note tous les restaurants, les hôtels, alors pourquoi pas les plages. Plus de 500 plages sont recensées, classées par catégorie, les sportives, les naturelles, les familiales. Et chaque jeudi, le site diffuse le classement des 10 ou 20 plages les mieux notées de la semaine. Les résultats sont tombés hier.
Suspense.
Et la gagnante est... La plage de la Torche à Plomeur dans le Finistère, suivie de celle de Port-Meurs et à Plouescat, toujours dans le Finistère. Tous à la plage, c'est à retrouver sur plage au pluriel pour letelegramme.fr.
Je peux faire une remarque ? Si vous dites que c'est cette plage-là qui est la plus, voilà, qui est en tête du classement, oui. Tout le monde va aller sur cette plage-là.
Et bah oui, la semaine prochaine, ce sera une autre.
Bah oui, mais moi, je vais aller sur la plage qui est en dernière du classement. Comme ça, je suis sûre de croiser personne.
Et bah, faites ça.
D'accord.
Vous croyez pas ?
Je suis d'accord.
Bah oui, enfin. Voilà. Ou alors on triche, on vote tous pour la plage où on a envie que les gens aillent.
Exactement.
Et
c'est une méthode comme une autre, Eva. Ouais.
Moi, j'aime pas partager les bons plans comme ça. Ça il y a trop de monde.
Ni sa serviette sur la plage.
Mais voilà.
Regardez ce qui s'est passé avec le Cap Ferret. Voilà.
Exactement. Il y a trop de monde. Partez, les gens. Vous retrouvez toutes les références. Je plaisante, hein, évidemment. Vous retrouvez toutes les références de tous les contenus dont on vous parle depuis ce matin à 9h sur le site europe1.fr. Et puis, s'il vous manque une information, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On attend aussi vos cartes postales, hein, papier ou numérique. On aime bien le papier. Ça permet de décorer ce bureau qui est un peu tristoun. L'adresse du club, c'est le 2 rue des Cévennes, 75-015 Paris. Gwendoline Hamon, avant qu'Olivier ne se mette à parler gastronomie aux grandes dames de nos estomacs qui vont commencer à gargouiller, vu l'heure, dernière pause musicale de la matinée avec Imagine Dragons et Bad Liar sur Europe 1.
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1,
Eva Rock.
Oh, hush,
my dear, it's been a difficult year. And terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling. It's been a valueless year. I'm a
Imagine Dragons pour terminer ce club de l'été, enfin presque, hein. Olivier Pouls a quelques astuces culinaires à vous dévoiler et c'est sur Europe 1 évidemment.
Le club de l'été sur Europe 1.
Le cauchemar des sardines, l'angoisse des merguez.
C'est la dernière séquence de cet Europe 1 club de l'été consacré à Gwendoline Amont. Gwendoline, toute la semaine, Olivier Pouls nous a gratifié de recettes à faire au barbecue. Viande, poisson, légumes, il manquait que les desserts.
Je vous demande pas si vous aimez le barbecue.
Alors, j'aime beaucoup ça, mais je préfère la plancha.
Ah, voilà, ouais, ça a été un débat qu'on a eu hier. Oui. Mais parce que les deux sont bien.
C'est un peu idiot ce que je vais dire, mais bon, on dit quand même que le barbecue, c'est un peu cancérigène, quoi, quand on fait cramer, même si j'adore le goût. Mais du coup, maintenant, je fais beaucoup plus de plancha.
On l'a répété toute la semaine, on va encore le répéter, il ne faut pas en abuser. Et puis surtout, surtout, il ne faut pas faire brûler les aliments. Et dès qu'on a des aliments qui sont brûlés, on ne les consomme pas. Mais, voilà. Oui, mais si on sait bien se servir de son barbecue, oui. Et notamment si on ne travaille pas sur des braises trop trop chaudes et si on règle la hauteur de la grille de manière
Des braises pas trop trop chaudes, c'est marrant ce que vous dites quand même.
Ah, si,
c'est
si.
Chaud les braises quand même, non,
bah,
non
mais... c'est chaud bien évidemment, oui, mais...
Bon, vous ne mettez pas la main dessus.
Par essence, non mais par essence c'est chaud, mais à partir du moment où au tout début vos braises sont très très chaudes et puis petit à petit elles vont perdre en température, elles seront un petit peu moins ardentes. Et puis surtout...
C'est bon, c'est grillé justement.
Oui, grillé mais pas brûlé. C'est pas tout à fait la même chose.
C'est pour
chose.
Ça que j'utilise une plancha.
Ben, la plancha, c'est vrai que la plancha, là, pour le coup, on peut l'utiliser tous les jours. C'est très diététique.
C'est
et
moins
on va.
C'est
on
moins
va vous laisser. Hein.
On va
vous laisser.
C'est sympa, merci. Mais on va parler de plancha dans les semaines
oui.
qui viennent.
Alors, a priori, quand on parle de dessert au barbecue, ça devrait être des fruits, parce qu'un gâteau au chocolat au barbecue, moi, j'y crois
c'est
moyen.
Compliqué.
Alors, qui dit fruits dit chanson sur les fruits.
J'aime les fruits.
Vous pensez que j'allais vous mettre ça avec deux fruits, hein ? Eh ben non.
J'aime
qui chante ça ? Je sais pas, j'ai arrêté de regarder des chansons débiles que
j'aime les fruits, j'aime les bananes.
C'est bien, non ? Vous n'aimez pas cette chanson ?
Je me demande bien si elle ne les fait pas faire pendant la nuit,
non,
toutes ces chansons.
Non, je ne les fais pas faire. Non, non, je vous assure que non.
C'est improbable, ça n'existe pas,
je
cette
sais,
chanson.
Mais je sais,
je vais la chanter en sortant. J'aime les fruits.
Vous voyez ? Voilà, ça marche.
J'aime les bananes.
Et voilà. Avec toute la journée. Voilà. Allez, c'est parti.
Tous les jours, on parle d'une banane au moins une fois dans l'émission. Donc, c'est une règle du jeu depuis le début de la semaine. Et on a la banane. Olivier, comment on fait nos fruits au barbecue.
Alors, c'est vrai qu'a priori, ce n'est pas ce qu'on va cuisiner en priorité, mais je vous propose de faire de délicieuses petites brochettes de fruits. Et c'est une manière de les consommer originales. Il ne faut pas trop les cuire non plus. Donc, vous allez prendre les fruits de saison, ce qu'on trouve en ce moment, des pêches, des abricots, des fraises, pourquoi pas une
des cerises.
Framboise. Les cerises, c'est un peu compliqué parce qu'il y a que le noyau pour les piquer sur la brochette. Je vous souhaite bon
courage. C'est pas ma réflexion de fille qui n'a pas pris ses neurones.
Cerise. Merci Eva, celle-là on l'attendait. Alors...
De myrtilles, de framboises,
des groseilles,
de
graines de goji.
Vous me dites des fruits de saison, excusez-moi, en ce moment c'est la saison des cerises.
De la mangue par exemple, voilà, mais plutôt des fruits dont vous allez pouvoir détailler des gros quartiers ou des grosses fraises, voyez. Et donc vous allez me confectionner une jolie brochette de tous ces fruits avec une cerise au milieu. Et vous allez pouvoir l'enrober d'un tout petit peu de miel que vous aurez réchauffé. Vous aurez mis un petit peu de miel par-dessus pour faire comme une espèce de marinade. Et là, sur des braises justement pas trop chaudes et sur une grille qui n'est pas trop près des braises, vous allez faire revenir vos petites brochettes pendant...
Mais c'est très rapide, oui.
C'est très rapide, oui. C'est 2 minutes de chaque côté. Il ne faut pas que le fruit cuise de trop parce que sinon, souvent, les fruits ils vont se mettre à rendre du jus et du sucre. Et donc, vous allez les dessécher. Et puis, surtout, ils vont plus se tenir. Donc, c'est vraiment histoire de les marquer, de les chauffer un petit peu. Et vous allez servir avec quelques herbes du jardin, tout simplement. Un petit filet de jus de citron, par exemple, pour contraster avec le miel.
Bon,
et puis, quelques herbes, la menthe fraîche, par exemple, ça marche très, très bien avec les fruits. Le basilic aussi, vous pouvez utiliser avec vos petites brochettes de fruits. C'est tout simple, là, pour le coup, c'est léger, c'est diététique.
Mais ça fait un peu classe quand même auprès des copains de faire des petites brochettes au barbecue.
Et puis, vous êtes un peu surpris de voir que vous allez mettre vos fruits sur le barbecue. Ça fait toujours un petit effet.
Ouais, moi, j'ai très envie de faire cuire du chocolat et de tremper les brochettes de fruits dans le chocolat.
Moi, je trouve que quitte à bouffer des desserts, autant grossir.
Exactement.
Sinon, j'en mange pas.
Sinon, ça vaut pas le coup.
Lise, vous aviez une question à propos des fruits.
Oui, avant qu'on les fasse cuire, ces fruits, Olivier, comment est-ce qu'on les conserve? C'est-à-dire, dans une corbeille, moi, j'ai entendu dire qu'il y avait certains fruits qui ne se mariaient pas avec d'autres, qui les faisaient trop mûrir, pas assez. Est-ce que c'est vrai?
Et puis, il y a des petits moucherons aussi.
Est-ce que vous savez ce que sont les fruits climactériques?
Non.
Alors, les fruits climactériques, ce sont les fruits qui continuent à mûrir après avoir été récoltés. Alors, c'est par exemple l'abricot, l'avocat, la banane, les melons, les pêches, etc. Donc, ils continuent leur mûrissement. Et dans le processus de mûrissement, les fruits vont dégager de l'éthylène. C'est cet éthylène qui fait mûrir les fruits. Alors, si vous prenez des fruits climactériques que vous mettez avec des fruits qui ne le sont pas, comme par exemple... vous les mettez ensemble, vous mettez une pomme très mûre, par exemple, ou une pêche très mûre avec des fruits climactériques, il va dégager, celui qui est mûr va dégager l'éthylène et ça va accélérer le processus auprès d'autres fruits. Mais il y a des fruits qui ne sont pas climactériques, comme par exemple les fraises, les framboises, beaucoup de fruits rouges. Et là, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, ils ne mûrissent pas.
Ils pourrissent.
Après, exactement. Ils pourrissent et ils ne mûrissent pas après avoir été récoltés. Donc, les fruits climactériques, ensemble, à l'extérieur, parce que le frigo freine la production d'éthylène, donc à l'extérieur, et vous allez accélérer, mais attention, ça peut aller très vite, le mûrissement de vos fruits.
Merci beaucoup Olivier Pouls pour toutes ces explications et puis ces recettes évidemment. Si vous avez des questions pour Olivier, vous n'hésitez pas, c'est sur Twitter avec le hashtag Europe 1, parce que vous l'avez compris, ce club c'est le vôtre évidemment. Merci infiniment Gwendoline Amont pour ces 2 heures, on était très heureux de vous recevoir.
Mais moi aussi, merci
Cassandre,
à vous de m'avoir
c'est sur
accueilli.
France 3, 3 épisodes déjà tournés, un 4e sera tourné pendant l'hiver et puis France 3 diffusera ça pendant l'hiver. On vous suivra évidemment, puis on attend aussi vos projets d'écriture de théâtre parce que je sais qu'il y a des choses qui se prépare.
Et
on croise les doigts pour vous. Lise Pressac et Olivier Pouls. On se retrouve lundi, même lieu, même heure.
Donc là, c'est le week-end ?
Oui, avec un aveu. Alors, lundi, invité déjà venu l'an dernier, mais que voulez-vous ? Il m'a fait du chantage pour pouvoir revenir. J'ai cédé.
Il a sa carte de membre après tout. Moi,
je reviens
l'année prochaine, je l'ai dit.
Quand vous voulez, mais même cette saison. Voilà. C'est l'écrivain David Fonkinos qui sera avec nous. On s'en réjouit. Voilà. On va partir en Bretagne avec lui, Gwendoline Amont, décor d'un de ses romans, Le Mystère Henri Pic. Rendez-vous de 9h à 11h en direct, vous le savez. Je vous laisse en compagnie d'Anne Roumanoff en vous souhaitant une très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Un très bon week-end aussi et à lundi.
Bon week-end à tous.
Au revoir.